Bon, alors, on va d'abord, merci d'être présent. Je dis aux étudiants du Master GTES, vous avez le salut de Malcolm Ferdinand, parce que j'ai dit que vous ne pourriez pas aller le voir tout à l'heure, parce que vous intervenez en même temps que les jeunes de banlieue climat. Donc voilà, on essaiera de faire un pot avec lui après, peut-être. Donc, merci d'être présent, en tout cas. Merci aussi, je dois remercier institutionnellement le laboratoire. Printemps, qui a financé le déplacement des étudiants en même temps que le soutien de l'objet interdisciplinaire sciences et culture, société de la connaissance et médiation des savoirs de l'Université de Paris-Saclay et AgroParisTech, qui ont rendu possible notre déplacement. Et surtout, l'instant d'après, et Annie, je ne sais pas si elle est là, merci beaucoup de l'accueil que vous avez réservé aux étudiants et aux intervenants. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, en fait, c'est la continuité d'une réflexion qu'on mène avec David Porchon sur la question de l'activisme militant écolo. Et David présentera plus spécifiquement ce qu'il fait sur cette question-là. Et l'année dernière, aux Journées de Cluny, on avait présenté un atelier sur les questions autour de l'usage de la violence dans les pratiques militantes écologistes. Et donc cette année, on a décidé de plutôt focaliser sur le travail militant par rapport au droit et face et avec le droit. Et donc on a organisé une journée d'études au 1er octobre sur cette thématique à l'Académie du climat avec les étudiants de GTES. GTES, c'est gouvernance de la transition écologie et société. Et les étudiants de SPES, qui est une autre formation d'AgroParisTech, mais ils ne sont pas là aujourd'hui parce qu'on n'avait pas assez de sous. On a fait un choix drastique et contraignant. Et donc ces étudiants avaient travaillé avec des activistes militants que David avait invités et des chercheurs pour réfléchir sur plusieurs thématiques, sur la question du rapport entre le droit, ce qu'on appelle la juridicisation dans le jargon, entre les militants et l'État. Et donc, l'idée, c'était vraiment de réfléchir sur les raisons pour lesquelles les pratiques, finalement, du rapport au droit, tant du côté de l'État que du côté des activistes militants, changent. Avec un cadre théorique et écologique extrêmement important. C'est que tant du côté des militants que du côté des forces de répression, nous, ce qu'on souhaitait interroger, c'est le fait que cette transformation de l'activité militante se situe dans le cadre des limites planétaires. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement l'activité militante qui nous intéressait, c'est pourquoi ces militants vont radicaliser certaines pratiques comme la violence ou la non-violence offensive ou la contre-violence et de savoir comment effectivement ça posait de plus en plus dans un espace démocratique la question du rapport au droit. Alors le droit c'est structurant dans l'activité politique démocratique mais surtout cette question de la juridicisation, ce que le sociologue Jérôme Pélisse désigne comme le phénomène du recours accru au droit dans les interactions ordinaires de la relation politique et de la relation sociale. C'est-à-dire que de plus en plus, finalement, les rapports dans la société, qu'ils soient du droit, politique ou sociaux, eh bien, utilisent le référentiel juridique comme étant un élément de définition de légitimité de l'acte démocratique ou de l'acte militant. Et ce n'est pas anodin. Normalement, l'espace démocratique, notamment les élections, sont là pour gérer ce rapport. Or là, de plus en plus, on fait appel au rapport au droit, soit pour sanctionner, soit pour légitimer sa cause. Et ce rapport au droit, finalement, transforme un peu aussi les pratiques des rapports démocratiques. Alors, dans cette journée d'études, on avait insisté, et ça c'est extrêmement aussi important pour nous, sur la dualité de cette juridicisation. Alors, on emploie à terme le terme de juridicisation et non pas de criminalisation de l'activité militante, justement pour montrer la dualité des pratiques qui sont faites par rapport et avec le droit. Alors, cette dualité, c'est le fait que la juridicisation, elle est parfois utilisée de manière offensive comme arme par les militants écologistes, notamment dans deux directions. Le contentieux stratégique, par exemple notre affaire à tous, hein, qui rappelle juridiquement, par l'intermédiaire du juge, l'État a ses propres obligations juridiques. Okay? Donc ça, historiquement, ce n'est pas très nouveau, mais on verra avec les étudiants s'il y a quelque chose de nouveau, sous le soleil. Et puis, c'est l'utilisation aussi du procès comme tribune politique pour faire avancer une cause, pour la justifier ou la légitimer. Et là aussi, est-ce que finalement, le contexte écologique de plus en plus urgent qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que ça transforme aussi ce rapport des pratiques militantes par rapport à ce type de procès comme tribune ? Et de l'autre côté, dualité, c'est la juridicisation répressive, le droit comme bouclier. Finalement, dans un état de droit, eh bien, il est légitime, par principe, que les forces répressives, on va les appeler comme ça, mais l'autorité, le juge, peu importe, l'autorité politique, le gouvernant, eh bien, il est légitime pour lui d'utiliser la répression policière et administrative par rapport à certaines actions militantes qu'il va considérer comme transgressives de l'ordre public. Okay. Là aussi, est-ce que finalement les manières d'agir des militants transforment ces pratiques répressives ? Et donc là, Sophie Lemaître interviendra clairement sur cette dimension-là pour voir s'il y a quelque chose de fondamentalement nouveau qui se met en place dans ces rapports entre répression policière et liberté de l'activité, de l'activité militante, de l'activité des libertés publiques fondamentales, hein, le droit de manifester, le droit de s'exprimer, etc. Et de l'autre côté, toujours dans cette dualisation, cette dualité, il y a une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, mais qui passe un peu sous les radars, parce qu'on focalise évidemment sur les pratiques désobéissantes, ou on focalise sur la répression de l'État, mais c'est le fait que l'État lui-même va évoluer dans sa pratique juridique. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la modernisation du droit de l'environnement, par exemple, qui se transforme. Alors, on peut considérer que c'est insuffisant, ce qui est le cas, on peut considérer que ça ne va pas assez vite, ou par rapport au problème climatique, ce n'est pas suffisant, problème écologique d'une manière générale, parce qu'il ne faut pas les réduire à la seule question climatique. Et donc là, c'est tout le travail de réforme législative et judiciaire, et puis surtout l'évolution jurisprudentielle, c'est-à-dire le juge qui vient compléter les angles morts de l'expression juridique législative, et qui vient finalement faire progresser, ou pas, la cause écologique dans le fait que l'État devrait ou doit bouger beaucoup plus. Donc cette dimension-là, elle est effectivement assez étendue dans les réflexions. Donc on va essayer simplement, dans le cadre de cet atelier, faire un certain nombre de propositions. Finalement, vous allez le voir, on n'est pas tous forcément au clair sur les conséquences politiques de cette juridicisation et de cette position duale de cette juridicisation. Donc David Porchon, qui est doctorant en sciences politiques, qui fait sa thèse sur, alors vous allez voir le titre, ça fait vachement un télo, « Savoir et métamorphose en anthropocène, contribution à une théorie politique environnementale de la violence ». C'est chic, hein ? Tu te souviens que c'était ton titre de thèse ? Non, ben voilà, c'est ton titre de thèse. En fait, c'est le titre qu'on a déposé officiellement, donc il faut toujours faire très très sérieux. Et puis David vous expliquera qu'effectivement, le contexte écologique et militant transforme effectivement le recours à cette juridicisation. Alors les étudiants du master viendront présenter effectivement le bilan de cette journée d'études. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils apporteront aussi leur propre regard critique sur ce qui a été les principales conclusions de cette journée préparatoire de Cluny. Enfin, Sophie Lemaître, autrice d'un ouvrage que je vous recommande, Réduire au silence, comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG. Alors ce matin, tu es intervenu plutôt sur le journalisme, voilà. Et maintenant, Sophie va faire le service après-vente sur les ONG, puisque effectivement, c'est pas exactement la même chose, même si il y a étrangement des convergences assez inquiétantes d'ailleurs dans un espace démocratique. Et puis enfin, on ouvrira un débat collectif essentiellement sur les stratégies futures des mouvements écologistes face ou avec cette juridicisation. C'est aussi le moment de se poser la question, est-ce que c'est pertinent, utile, efficace ou pas de faire ce travail-là avec ou face au droit. Voilà. David, c'est à toi.
Il faut que je prenne un micro ou ça va comme ça ? Ouais. Alors attends, parce que tac, ça marche ? Ça va marcher. Ouais, d'accord. Ok. Donc non, je me souvenais pas du tout effectivement du titre de cette thèse. Alors comme l'a précisé Bruno Villalba, donc moi je m'intéresse vraiment à l'action désobéissante écologiste en anthropocène et je voulais vous présenter donc quelques éléments en fait du cadre de cette action. Alors je me souviens pas du titre. En fait moi la méthodologie que j'ai adoptée c'était concrètement un petit peu dans la perspective au niveau militant de l'enquête, hein, c'est de savoir un petit peu ce que les gens mangent pour comprendre. Donc ce qui renvoie aussi à l'ethnographie de la microsociologie de l'école de Chicago. Donc concrètement, je suis allé sur le terrain. Alors une première peut-être indication comme ça à chaud que je peux vous donner, c'est que ce qui est intéressant, c'est qu'en un an d'enquête ethnographique, j'ai pris une grenade sur le visage à Sainte-Soline. Et lors d'une garde à vue, j'ai été privé de ma canne blanche, en fait, vu que j'ai un handicap visuel, parce que ça a été jugé comme étant une arme par destination. Donc ça dit quelque chose. Et aussi, la journée d'études, que n'a pas précisé pour nous là-bas, la journée d'études qu'on a organisée a été censurée. Donc tout ça, en fait, c'est des indications. Ça vient nous dire, si vous voulez, quand même quelque chose du climat, en fait, qui existe aujourd'hui autour de l'action militante écologiste, qu'elle soit désobéissante ou non, parce que bien évidemment, nous n'avons pas désobéi en organisant une journée d'études. Donc, la question que je voudrais vous poser, qui est somme toute tout à fait joyeuse, donc, c'est comment, en fait, le cadre de la destruction généralisée du vivant d'aujourd'hui, qui est une série d'effondrements en cascade, provoque peut-être, en fait, une série de conflits de cadrage en cascade aussi, donc au niveau du droit et des droits dans l'action militante désobéissance. Alors, quand on parle, nous autres politistes, voilà, avec notre petit jargon de cadre, en fait, on fait référence, si vous voulez, à cette idée goffmanienne, donc Erving Goffman, que la réalité des acteurs, en fait, est construite dans un cadre. En gros, pour dire les choses assez simplement, il prend la métaphore cinématographique, c'est-à-dire qu'on voit ce qui est dans notre cadre et on ne voit pas ce qu'il y a à côté. Il y a un effet un petit peu excluant. Donc voilà, pour la blague, donc c'est l'histoire d'un aveugle qui va vous parler de ce que les autres voient ou ne voient pas. Donc je vous rappelle la définition quand même goffmanienne de ces cadres de référence, qui nous dit que ce sont des chaînes d'interprétation donc, qui permettent aux acteurs politiques donc, de percevoir, localiser, identifier, étiqueter des situations et de leur donner du sens. Donc, s'interroger sur les cadres de référence de l'action collective écologiste, donc, c'est donc s'interroger sur une mécanique qui a déjà été évoquée un petit peu dans la conférence d'ouverture, c'est qu'est-ce que eux voient que je ne vois pas. Donc, je me disais que ça peut être intéressant de présenter en fait cette mécanique. C'est aussi une mécanique, bien évidemment, du conflit. On dit souvent il y a deux mondes qui s'affrontent. En fait, c'est deux visions du monde. Donc, comment les visions du monde s'affrontent. Alors, moi, je voulais examiner donc avec vous dans ce court temps que j'ai. Donc, je fais confiance aussi à Bruno pour me couper. Il veille au grain, bien sûr. Donc, trois axes. En fait. Dans la théorie politique des cadres de référence, on dit qu'il y a, au fond, trois opérations essentielles qui vont construire ces cadres. D'abord, une opération essentielle de cadrage qui est le diagnostic, donc c'est le premier point qu'on va opérer, enfin examiner ensemble, c'est-à-dire le cadrage diagnostique qui correspond, si vous voulez, à quel est le problème. Voilà, première question, quel est le problème que se posent les acteurs en politique écologiste aujourd'hui. Et un deuxième point, donc, c'est le cadrage pronostique, c'est qu'est-ce qu'il faut faire face à ce problème. Et enfin, une troisième opération essentielle de cadrage qui est un petit peu moins traitée tout de même par Goffman, c'est ce que moi j'ai appelé en fait l'action constituante, c'est en quoi faire fait, enfin ce que faire fait. Donc c'est en quoi en fait l'action désobéissante et également constitutif de la réalité. Et donc, c'est un petit peu ce qu'évoquait Bruno Villalba en introduction, c'est que l'action désobéissante, mais les étudiants y reviendront également, a aussi pour viser de changer le droit. Et Sophie aussi, je suis très certain que tu le rappelleras. Donc, par rapport au premier point, donc cette première opération de cadrage, qui est le cadrage diagnostique. Donc, Le cadrage diagnostique aujourd'hui, il est axé autour de la destruction généralisée du vivant. Donc, quel est le problème ? Ben, aujourd'hui, il y a une destruction généralisée du vivant. Alors, l'opération de cadrage diagnostique, nous dit la théorie, est particulièrement importante, notamment pour l'identification de cibles et de responsables. Alors, Dans un petit livre que Bruno Villalba avait écrit sur l'écologie politique, je suis gentil, il me dit, c'est vrai que je suis gentil, les aveugles sont gentils. Et, enfin, pas tout le temps, non, c'est vrai, c'est pas tout le temps. Et il nous disait qu'aujourd'hui, en fait, on est très certainement passé de l'hypothèse au constat. Et moi, dans mon enquête, ce qui ressort assez massivement et qui est, je pense, peut-être assez nouveau, enfin en tout cas c'est une interrogation qu'on pourrait émettre, c'est qu'il y a une dimension aujourd'hui sensible du constat. Je vais vous lire donc quelques vignettes ethnographiques, donc des témoignages de militantes et de militants que j'ai recueillis, qui témoignent un petit peu de cette évolution du cadrage diagnostique. Donc Jean arrête la barque et s'exclame en colère en secouant la pigouille plantée dans la vase. Alors la pigouille, vous savez, c'est une espèce de grande barre là, en bois qui permet, en théorie, moi j'y arrive pas, mais bon, de diriger une barque dans les marais. Bref. Donc il me dit, et ça, c'est pas de la violence ? Tous ces arbres malades, il n'y a plus de lentilles dans le marais, il n'y a plus d'eau dans le mignon. Ça, c'est pas de la violence, ils nous empoisonnent et ils empoisonnent notre avenir. Une autre vignette, une autre situation. Dans la voiture, Gabriel pleure à chaudes larmes sans pouvoir s'arrêter tout en conduisant. Donc Gabriel me dit donc, il massacre tout. Ces collines et ces forêts, c'était mes terrains de jeu. Et je terminerai par un dernier exemple qui me tient un petit peu à cœur, c'est l'antispécisme. Donc Aude me parle de scier des miradors en forêt et de libération animale, en se retournant régulièrement pour voir si nous ne sommes pas suivis. Donc, elle me dit donc, au début, je ne les voyais pas, tu sais. Et maintenant, quand je vais dans les magasins, je les vois, tous ces cadavres. Et peut-être un dernier exemple aussi que j'aimais bien. J'ai rencontré une fois un ornithologue, donc c'était le métier d'étudier les oiseaux. Et quand je l'ai rencontré, en fait, il pratiquait du black block, parce qu'à un moment donné, donc il me disait ça, il en avait marre de voir les espèces d'oiseaux qu'il étudiait disparaître, et il a voulu passer à l'action. Donc, on voit, enfin moi, il me semble qu'on voit au travers de ces exemples que il y a une perception sensible, si vous voulez, d'un environnement qui est dégradé, qui se délite, comme ça, sous les pieds des acteurs. Alors on pourrait se poser la question, en fait, est-ce que c'est la perception d'un changement ou un changement de perception ? En tout cas, l'un des éléments en fait, saillants hein, de ces discours, c'est que la dégradation environnementale, et vous l'avez très certainement repéré, elle est d'abord concrètement perçue, mais elle est vécue et nommée comme une violence. C'est-à-dire, je vous rappelle les mots qu'ils utilisent, donc un massacre, éventuellement un meurtre en tout cas, qui remet en cause un petit peu le cadre dans lequel évoluait l'acteur. Donc, si on reprend la petite définition, si vous voulez, goffmanienne que je vous avais donnée, vous vous souvenez des schèmes d'interprétation qui permettent de localiser, identifier, percevoir, etc., ben on pourrait dire que la destruction généralisée du vivant, donc issue de l'anthropocène, hein, elle est perçue. Donc il y a une perception. Hein. Cette perception, donc, elle est identifiée comme une violence. Hein. Ensuite, donc, cette violence, où elle est localisée, elle va être localisée, enfin, en tout cas par les acteurs que j'ai rencontrés, dans certaines infrastructures. Ces infrastructures, elles sont étiquetées comme étant écocidaires, c'est-à-dire à l'origine d'une violence qui est souvent inqualifiable. Ça renvoie un petit peu, si vous voulez, à cette idée hein, qu'avait émis Günther Anders d'une violence supraliminaire hein, qui nous dépasse. Alors bien sûr, en fait, il y a une boucle un petit peu de rétroaction positive, si vous voulez, qui s'opère dans la théorie entre perception et identification. C'est-à-dire que c'est à la fois parce que, cette dégradation environnementale est identifiée, étiquetée comme une violence, qu'elle va être après perçue comme une violence, mais c'est aussi parce qu'elle est perçue comme une violence qu'elle va être... Enfin voilà, donc il n'y a pas de dilemme entre l'œuf, la poule, etc. Donc ce cadrage diagnostique, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'ancre, en fait, dans un cadrage motivationnel qui a impliqué un vocabulaire de motifs souvent... autour de trois points, donc l'urgence d'abord de la crise écologiste, ce qu'ils nous disent tous les acteurs qu'on a rencontrés, donc, et que les étudiants vont le préciser encore plus tout à l'heure, mais c'est qu'aujourd'hui on n'a plus le temps. Act now, c'est maintenant qu'il faut agir. Ensuite la gravité
de la menace existentielle, hein, et de sa responsabilité, qui est responsable. Aujourd'hui, on a des responsables, hein, qui sont très clairement désignés. Et un troisième élément qui est important aussi, c'est l'efficacité supposée en fait de la désobéissance civile face à l'absence d'alternative. Hein. Je précise que en fait, ce cadrage motivationnel qu'on appelle aussi un registre de justification, il existait déjà dans les années 70. Hein. Ça n'a pas énormément changé, mais en revanche, il y a une intensification, une urgence peut-être plus prégnante. Et ce qu'on observe en revanche, peut-être différent, ça va être dans les slogans et les vocabulaires mobilisés. Je vous en donne deux ou trois. Hein. Et 1 et 2 et 3 degrés, par exemple, c'est un crime contre l'humanité. Donc vous voyez que là, encore une fois, une dimension de violence de la catastrophe est quand même mobilisée. À Sainte-Soline, la guerre de l'eau est déclarée. Hein, bon, et donc on est là pour la gagner. Bon, je ne suis pas sûr qu'on ait la gagner, mais en tout cas, bref. Au niveau de l'urgence, quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est le slogan de Scientific Rebellion, qui dit « What do we want ?» Donc climate justice, mais quand? Right now. Hein. Donc c'est maintenant, tout de suite, c'est pas dans 10 ans, pas dans 20 ans. Voilà. Donc à propos de d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, et vous l'avez compris, et je pense avec ce que je viens de montrer, c'est que la crédibilité, si vous voulez, de ce cadrage diagnostique, il s'appuie au fond sur deux jambes, on pourrait dire. D'abord, le statut scientifique, hein, qui caractérise en fait la situation écologique aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est vraiment une spécificité des luttes écologiques. C'est-à-dire, je renvoie à tous les travaux qui ont été faits à ce sujet-là, hein, des écologistes qui seraient des experts en action. Et enfin, donc un deuxième élément, et surtout, c'est la plausibilité empirique, perceptible, hein, de ce cadrage diagnostique qui est donc celui de la destruction généralisée du vivant. Et donc, alors, il y a un dernier élément peut-être, mais sans rentrer trop dans les détails. D'accord, il me reste 7 minutes, il me reste à peu près. Ouais.
Donc, je vais te le dire 10 minutes, donc je te dis 7.
Oui, voilà. Mais ça va aller, hein, je pense que... Ouais. Donc, c'est que ce qui est important de repérer, c'est que dans les typologies de cadrage, historiquement, on séparait les cadres naturels, dits naturels, des cadres sociaux. C'est-à-dire, donc, Goffman nous dit, mais au fond, que le soleil se lève, il pleut, je ne suis pas responsable. Les acteurs ne sont pas responsables de ça. Hein. En revanche, dans les cadres sociaux, il y a une intentionnalité, c'est issu des acteurs. Hein. Mais le cadre de l'anthropocène, si vous voulez, va briser cette séparation, hein, entre les cadres naturels et les cadres sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on pourrait dire que s'il pleut beaucoup plus fort, donc les événements météorologiques extrêmes, le fait qu'il fasse très chaud ou pas, en fait, mais il y a une intentionnalité de certains acteurs. Hein. Donc, pour conclure donc, sur ce cadrage diagnostique, vous l'aurez compris, donc la crédibilité de ce cadrage, en fait, il s'appuie sur deux choses. C'est d'abord le constat, hein, et le consensus scientifique. Donc, je passe ça parce que je ne vais pas avoir de temps, mais ce qu'on peut dire, c'est que on peut faire l'hypothèse, donc qu'il y a une évolution de perception et de caractérisation en fait de la dégradation environnementale, peut-être aussi qu'il y aurait en fait une évolution de cadrage de l'action collective à mettre en place, donc c'est-à-dire d'une manière en fait de mettre en scène ou de mettre en jeu le conflit politique. Donc j'en arrive à mon deuxième point, donc la deuxième opération de cadrage, qui est le cadrage pronostic. En gros, la question c'est qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'on nous dit, donc, enfin, dans toujours cette théorie des quatre, parce que donc, je vous barme un peu avec la théorie politique, mais parce que Bruno Villalba m'a dit si, vu qu'on est politiste et tout, il faut quand même donner quelques indications politiques, parce que les juristes, etc. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, si vous voulez, là-dedans, c'est que l'identification de problèmes et de causes spécifiques, ça va tendre à restreindre le champ des possibles en termes de solutions, notamment, et de stratégies dites raisonnables. Alors, ce qu'on observe donc sur le terrain, à mon sens, hein, c'est peut-être un dépassement de l'ancrage dans une vision procédurale du conflit, dans laquelle en fait la violence sera à répudier. Hein, et alors, ce qu'on appelle une vision procédurale du conflit, c'est-à-dire que les conflits politiques dont on parle, hein, écologiques, donc c'est-à-dire les conflits autour de la modalités de gestion de la crise écologique, seraient finalement ancrés dans un défaut de procédure, et donc au travers de la mise en place d'un certain nombre de lois et de droits, on pourrait résoudre cette crise-là. Mais le cadre, en fait, de la destruction généralisée du vivant, d'une urgence, d'une inefficience démocratique, pose la question, pour les activistes que j'ai rencontrés, moi, c'est peut-on désobéir civilement au meurtre de l'humanité ? C'est vraiment ça qu'ils me disent. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, c'est deux visions, en fait, hein, vraiment, hein, qui s'affrontent. C'est pas du tout manichéen comme je le présente là. Peut-être un exemple concret de terrain. À un moment donné, lors d'une action dont j'ai essayé de l'anonymiser le maximum, mais donc j'accompagne donc un certain nombre d'activistes, donc tout le monde se met en blanc avec des gants bleus, etc., masqués. Ils rentrent dans un bâtiment, donc on rentre dans un bâtiment parce que je les accompagne. Là, ils font quelques dégradations mineures en brisant des vitres, etc. Ils ressortent. Tout le monde se démasque, voilà. On met mes affaires en tas, et là, il y a un militant qui vient me voir, il agite son bras en disant « Mais regarde, il y a un vigile qui m'a mordu profondément. » Donc, le vigile qui protégeait, en fait, cette institution. Il a quand même été hospitalisé après pour morsure. Bon, voilà, c'est donc comme quoi la défense de la propriété est quand même assez prégnante dans nos sociétés. Et donc, mais c'est pas ça finalement qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que donc il me dit tant mieux si c'était une preuve que j'étais à l'intérieur avec ceux qui étaient avec l'intérieur. Comme ça, il y aura un procès. Et là, il y a d'autres militants qui étaient à côté qui disent surtout pas, mais il faut surtout pas qu'on sache que tu étais à l'intérieur. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a essayé d'instaurer une sorte de confusion, qu'ils ne puissent pas repérer ceux qui étaient à l'intérieur, qui étaient masqués, et ceux qui étaient à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Alors, si vous voulez, moi, il me semble que ça témoigne ça de deux visions, en fait, du conflit politique qui sont un peu concomitantes. Hein. C'est pas, encore une fois, voilà. Hein. Donc, une vision, pour la vision procédurale du conflit, bah, si le conflit est issu d'un défaut de procédure, bah, le cadrage pronostique de l'action, bah, ça va être que, bah, dans ce cas-là, on va agir à visage découvert. On peut rester assis, donc oui, parce que précisons, les personnes se sont assis aussi devant, et il y avait un autre élément important, c'est qu'il y avait une sorte de débat donc suite à une nasse policière qui durait plus longtemps que prévu et sans porte de sortie, et ça, je pense que Sophie rappellera aussi quelques dérives à ce niveau-là. Il y a eu ce débat un petit peu de est-ce qu'il faut briser la nasse finalement ? Donc, est-ce qu'il faut aller à la confrontation et briser la nasse ou pas ? Et donc là, ça a divisé un petit peu. Voilà. Donc, pour la vision procédurale du conflit, bah, bien sûr qu'on reste assis, on lève les mains en criant non-violence, non-violence. Hein. Pourquoi pas on se laisse embarquer et pourquoi pas même on utiliserait le procès comme une arène politique, une tribune politique. En revanche, si on est dans une autre vision du conflit, qu'on pourrait dire plus fondateur, avec peut-être une vision de la violence plus libératrice, eh bien, dans ce cas-là, ça n'implique pas les mêmes modalités d'action, hein, y compris dans le rapport à droit. Dans le rapport au droit. C'est-à-dire, dans ce cas-là, eh ben non, mais il faut rester anonyme, hein, et pourquoi pas on briserait la nasse, il faut absolument se dissimuler, et pourquoi pas affronter les forces de l'ordre, donc, mais surtout il faut donc éviter le procès. Il me reste combien de temps à peu près ?
52 secondes.
52 secondes. Eh bien, on va aller conclure. Alors, Ce qui est intéressant, si vous voulez, et donc là-dedans, c'est que l'action désobéissante, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord, c'est une mise en scène, à mon sens, d'une perception de la violence, de la violence de l'Anthropocène, et une contestation de cet ordre de la violence. Et je finirai par un dernier exemple qui m'avait pas mal marqué, qui tend en fait à montrer un petit peu ces conflits définitionnels de la violence qui sont mis en jeu en fait dans la désobéissance civile. C'était sur un plateau télé sur lequel j'avais été invité donc à France Info lors de la dissolution en fait des soulèvements de la terre. Et alors, les journalistes m'ont dit « Ah, venez, il y aura donc les soulèvements de la Terre, et puis Greenpeace, Extinction Rebellion, etc. » Et puis j'aurais dû m'en douter, parce que finalement, quand j'ai appelé Greenpeace, on dit « Non, non, nous, on ne vient pas. Extinction Rebellion, non, non, on ne vient pas. » Et donc, il y avait bien les soulèvements de la Terre, mais un militant de la FDSEA. Et donc, évidemment, le plateau commence, c'est très intéressant. Ils me disent « Ah, mais alors, les militants protestent, peut-être, mais avec violence, Monsieur Porchon, est-ce que vous cautionnez les violences ?» Déjà, ça commençait bien. Ensuite, le militant de la FDSEA nous dit « Mes salades, vous m'avez arraché mes salades. » Je dis « Bah non, mais c'est pas moi. » Enfin, je dis « Ah, bon, bref. » Et le militant écologiste qui disait, lui, « Oui, mais c'était une ferme qui était écocidaire, c'est pour ça qu'on l'a attaqué. » Et enfin, donc, le passage de la dissolution administrative des soulèvements de la terre, enfin, l'annonce de la dissolution par le ministre. Et donc, on voit bien que là, il y a au moins trois registres qui s'affrontent. Donc, pour le militant de la FDSEA, en fait, l'action désobéissante, c'est une violation de la propriété privée. Hein, c'est vraiment perçu comme le dépassement d'une force. Voilà. Pour le militant écologiste, non, c'est une action de libération et de changement d'un ordre politique qui est jugé écocidaire. Et au niveau de l'État, en fait, c'est une violence qui est donc à réprimer au travers d'un outil de dissolution administrative. Et donc, ces conflits-là, je pense qu'on va essayer d'examiner, entre autres. Je m'arrête là et je laisse pour des questions. Et donc, je vais laisser la place aux étudiants et aux étudiantes. Ouais.
Bien. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être si nombreux, la salle est pleine, waouh. Pour notre intervention, on est très heureux de pouvoir la faire et du coup on souhaite déjà remercier effectivement l'organisation de l'événement pour avoir accepté de nous donner la parole et nos professeurs qui nous ont accompagnés ainsi que nos camarades de classe qui évidemment ont participé au travail que l'on va rendre aujourd'hui. Donc j'aimerais commencer par faire un lien avec ce que vous avez dit David sur les infrastructures qui sont un peu désignés comme des adversaires, comme des éléments qu'il faut un petit peu qui illustrent les dommages faits à l'environnement. Et ça nous pose ici la question, et ça va être ma clé d'entrée, sur l'acceptabilité de la propriété privée et des biens qui sont parfois vus comme ceux qui vont créer le mal. Donc c'est une différence de vision et c'est au fond ce qui va amener la judiciarisation, et j'ai réussi à le prononcer sans problème, de la lutte. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que finalement, on va avoir différentes visions sur ce qui est acceptable et c'est ce qui ne l'est pas. Et c'est aussi sur ça un petit peu que vous avez conclu. Et au fond, ce qui est acceptable dans notre société, c'est ce qui est défini par le droit, fondamentalement. Et donc forcément, lorsqu'il y a des conflits entre individus, entre mouvements, entre acteurs de ce qui est acceptable, ça rejaillit sur un conflit de droit, un conflit juridique. Et donc c'est ici ce qu'on va aborder. On va l'aborder avec du coup cette journée d'études préparatoires que nous avons pu effectuer le 1er octobre. Et donc Bruno Villalba a très bien rappelé le contexte de cette journée. Simplement pour le dire en quelques mots, on a un contexte d'urgence climatique et de backlash un petit peu actuellement qui va peut-être amener certaines modification des répertoires d'action des militants et notamment sur la désobéissance civile qui va être un petit peu vraiment la clé d'entrée de notre analyse de la judiciarisation, même si évidemment ce n'est pas le seul point que l'on peut aborder. Donc évidemment la désobéissance civile, c'est pas quelque chose qui a été inventé hein, par les militants écolos, c'est quelque chose qui remonte à très longtemps. On peut citer notamment les mouvements civiques aux États-Unis avec Rosa Parks, Martin Luther King, etc. Mais aujourd'hui, on a vraiment une intensification de ces procédés-là. On rentre dans une phase inédite, en réalité, de la judiciarisation. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu en vous présentant justement les répertoires d'action, les registres de justification qui sont amenés par à la fois les militants que l'on a rencontrés, donc des militants. On a également rencontré, j'ai oublié de le dire, des avocats, mais aussi des chercheurs lors de cette journée d'études. Et puis, donc ça, c'est Clarisse qui va s'en occuper, donc qui va vous présenter un petit peu les registres de justification des militants. On aura Jules ici qui vous présentera la vision un petit peu plus de l'État, des autorités publiques. Et enfin, Emma vous abordera la question des conséquences de cette judiciarisation sur les comportements militants et au-delà sur la pratique démocratique en elle-même. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
Vous m'entendez ? Ça marche ? Ok. Donc dans cette partie, on va s'intéresser au registre de justification des militants et donc comment les militants justifient leurs actions, quels sont les axes de transformation de la stratégie. Et donc déjà, quand on parle de registre de justification, de quoi on parle réellement ? Donc dans le jargon des sciences pistes, c'est ce sont des éléments qui poussent les militants à légitimer leurs actions, donc même celles qui vont enfreindre la loi. Donc on parle notamment de désobéissance civile. Déjà, on peut parler du premier registre moral existentiel, donc, qui est donc l'urgence écologique. Depuis les années 70, avec notamment le rapport Meadows, les préoccupations écologiques sont entrées dans le débat démocratique. Et aujourd'hui, on a de plus en plus de rapports, une multiplication de l'information, une accélération de la crise écologique, et donc qui donne une dimension concrète à cette urgence-là. Donc selon les militants qu'on a rencontrés pendant la journée du 1er octobre, l'État est inadapté et inefficace face à cette urgence écologique. Et ça amène les militants et militantes à considérer que ces actes de désobéissance civile sont légitimes et nécessaires pour faire valoir leurs revendications. Donc c'est une action qui va s'inscrire dans une volonté de bien commun et d'intérêt général. Donc un second registre qui est important de souligner, c'est la crise de la démocratie. Donc le rapporteur, pour citer un petit exemple, le rapporteur des aux Nations Unies des défenseurs de l'environnement, Michel Forst, dit trois éléments importants. Donc il parle de rétrécissement de l'espace civique, avec notamment un débat public qui est de plus en plus muselé, une crise de la représentativité politique, et aussi une concentration des médias. Donc ces trois éléments-là vont limiter la participation citoyenne et encourager le désengagement des citoyens et citoyennes français. Les militants estiment donc que les canaux démocratiques traditionnels ne permettent plus d'agir efficacement. Et donc ces constats-là, nourrissent la conviction qu'il faut agir autrement, parfois en dehors d'un cadre légal, pour rendre audible une parole qui est trop souvent étouffée, comme le disent les militants. Donc ces registres de justification-là sont les mêmes qu'avant, mais l'urgence écologique et démocratique dans laquelle ils s'inscrivent conduisent à modifier les stratégies donc, des militants en ayant recours aux droits notamment. Donc le droit a engendré deux axes de transformation profonde qu'on a retenu. Il y a notamment l'évolution du rapport au procès qu'a déjà expliqué Monsieur David Porchon. Donc avant, la désobéissance civile visait souvent à accéder au procès qui était perçu comme une tribune, comme un espace démocratique, un espace de plaidoyer et de médiatisation. Et aujourd'hui, les militants s'en méfient davantage parce que c'est cher, parce que ça prend du temps et qu'ils s'exposent aussi à des risques réputationnels, donc de par la mise en place de stratégies coercitives par l'État notamment, comme nous le verrons plus tard. Mais cependant, les procès restent un lieu possible d'évolution du droit. Aujourd'hui, le contentieux juridique est construit de manière beaucoup plus efficace que dans les années 70. Et on a notamment une évolution des outils juridiques. Donc avant, on utilisait l'argument de la légitime défense Et aujourd'hui, un des arguments le plus utilisé par la défense des militants et militantes, c'est l'état de nécessité. Donc cette notion juridique, elle consiste à autoriser une action illégale pour empêcher un dommage encore plus grave. Donc on a par exemple l'exemple de monter dans des arbres ou de bloquer des AG d'actionnaires qui seraient donc proportionnellement moins graves que l'urgence écologique, comme l'expliquaient les militants. Voilà, bon, cet argument de l'état de nécessité ne fonctionne que dans très peu de cas aujourd'hui, mais il continue d'être redéployé dans l'espoir d'une évolution jurisprudentielle. En second axe de transformation stratégique, on a notamment la professionnalisation des militants. Aujourd'hui, avant, les militants s'adaptaient aux règles juridiques et aujourd'hui, ils investissent le droit pour le transformer et non plus juste le subir. Donc on a une montée en compétences dans les associations, avec notamment la création des legal teams ou encore la formation au langage juridique. Donc comment passer du langage militant au langage juridique, la création de nouvelles associations pour le droit de la nature, donc on peut notamment citer Wild Legal, ou encore notre affaire à tous, le procès du siècle. Donc voilà, le droit a investi tout l'espace militant, et la réponse de l'État aux actions militantes, qui se traduit aujourd'hui par une intensification de la juridicisation, est disproportionnée, enfin est dite disproportionnée selon les militants, face à l'urgence écologique. Voilà.
Très bien, vous entendez ? C'est bon ? Merci, merci Clarisse. Alors maintenant, on va tenter de partir d'une approche étatique face à cette mobilisation des militants écologistes. Comme le disait Patrick Bouffon vendredi soir, essayons de comprendre les autres qui sont face à nous ou tout simplement pas d'accord avec nous. Donc pour cela, je vais développer trois grandes idées. La première, c'est tout d'abord le respect de l'état de droit dans un régime démocratique. Faut repartir du postulat général. L'État est le garant de la légitimité juridique. Il produit la norme générale, notamment par la loi, et garantit par conséquent l'ordre public. Mais ce cadre, il reste profondément anthropocentré. Cela s'explique par la conception moderne de l'État où l'être humain est au centre, justifiant l'exploitation du vivant par son unique développement. L'exemple le plus frappant, ce sont les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux imposent que doit être protégé, quoi qu'il en coûte, ces droits. Ce sont la liberté d'entreprendre, la sécurité, la propriété privée, par exemple. On peut prendre le cas de Sainte-Soline. Peu importe que les méga-bassines soient une catastrophe environnementale, l'État doit protéger cette parcelle privée. Et si vous aviez vu hier soir le documentaire de Vincent Verza, Le vivant qui se défend, à un moment, il y a une image par drone en surplomb sur cette méga-bassine. Et en fait, il y a les gendarmes qui la protègent tout autour. Et cette méga-bassine, elle doit être défendue quoi qu'il en coûte pour cette propriété privée. Et ce droit, il est héritier de la Révolution française. Hein. Il est à la base de notre société moderne, démocratique. Résultat, la défense de l'ordre public prime sur la défense de l'environnement. La deuxième idée, c'est le rôle du juge, membre à part entière de l'État. Si on reprend encore une fois le cas de Sainte-Soline, le documentaire d'hier le dit limpidement. Ce projet, il est au final jugé illégal par le juge administratif car il portait atteinte à une espèce d'oiseau protégé. On voit ici que c'est le juge qui tranche entre les militants et l'action gouvernementale. Le juge devient un acteur central de cette bataille juridique. Il contraint l'État à respecter ses engagements environnementaux. Le droit européen, la charte de l'environnement et le droit national joue un rôle majeur dans cette modernisation juridique. Grâce à l'intégration croissante de l'environnement dans le droit, les juges n'appliquent pas seulement la loi, ils la font évoluer. La charte de l'environnement le rappelle sans détour dans son préambule au considérant 6, la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation. Donc vous comprenez un peu le dilemme qui se pose, c'est-à-dire que comment l'État va concilier entre deux intérêts fondamentaux contradictoires, comme l'ordre public et l'environnement. Par le recours au droit, les militants cherchent exactement à faire bouger les lignes et à introduire une vision éco-centrée, c'est-à-dire que c'est un système de valeurs centré sur la nature par opposition à un système centré sur l'humain. Le droit n'étant pas figé puisqu'il est une convention entre acteurs sociaux, et nous avons par exemple la reconnaissance progressive hein, de l'état de nécessité écologique, la notion d'écocide ou des principes de prévention, de précaution qui sont stipulés dans le droit de l'environnement. Cette bataille juridique est témoigne d'un dialogue pacifié. Le conflit a lieu principalement dans les tribunaux en s'inscrivant dans l'état de droit démocratique. Comme le disent parfois les juristes du droit de l'environnement, le juge peut être considéré comme un dernier rempart démocratique. C'est aussi un levier d'évolution du droit. Enfin, troisième grande idée, c'est que l'État il est en constante évolution. L'État n'est jamais figé. On peut se poser la question de qui est l'État. On le voit bien en ce moment, Retailleau, Le Cornu, oui, non, c'est pas trop. Il y a l'État profond aussi, les discours entre les différents acteurs, opérateurs. Ça évolue constamment par l'action plus politique et par les politiques publiques. Et la désobéissance civile, elle vise justement à faire évoluer le droit vers une prise en compte du vivant. Il y a une certaine négociation institutionnelle avec l'État dans le but de faire évoluer le droit. Les récentes demandes militantes, droit de la nature, écocide, justice climatique, elles interrogent le cœur du contrat social. Peut-on intégrer le vivant comme sujet de droit ou comme droit fondamental, comme le voudraient les activistes écologistes? Voilà.
On va revenir maintenant sur les effets de cette juridicisation. Ce qui nous frappe aujourd'hui et qui est ressorti de notre rencontre avec les militants, c'est le décalage entre la gravité des crises écologiques et la réponse de l'État. Les rapports scientifiques s'accumulent, la septième limite planétaire vient d'être dépassée, les crises environnementales se multiplient, s'intensifient, et pourtant, cette urgence n'a pas ou peu eu de répercussions directes sur l'agenda politique. Comme le disait Cécile Duflot jeudi soir, il y a toujours plus urgent que l'écologie à l'agenda du gouvernement. Cette lenteur ou prudence institutionnelle a conduit les mouvements écologistes à investir le terrain du droit, à saisir les tribunaux, à mobiliser la désobéissance civile et à transformer le droit en outil de lutte. Cette juridicisation des mobilisations a produit un effet double. Donc on observe à la fois une lassitude des militants et aussi une radicalisation croissante qui sont les deux faces d'une même crise démocratique. Déjà, on va parler de la lassitude des militants. Donc, face à un État qui est perçu comme immobile, beaucoup de militants ressentent un épuisement profond. Les procès se multiplient, ils sont épuisants, ils coûtent cher, et même quand les militants gagnent, on peut par exemple citer l'affaire du siècle, en réalité, rien ne change. Ça conduit à une réelle fatigue militante qui est nourrie par ce sentiment d'impuissance. À cet épuisement s'ajoutent les risques économiques, les risques donc de répression, mais aussi les risques sur sa vie personnelle, sa vie professionnelle, un éloignement avec sa famille, et un sentiment de trop d'énergie dépensée pour trop peu de résultats visibles. Et cette fatigue, elle se traduit également par un manque de renouvellement des militants. Donc on l'a vu, le militantisme s'est professionnalisé, on privilégie des experts dans les actions militantes, pour éviter de se faire prendre, et ils peinent à attirer de nouveaux militants. On va maintenant parler du deuxième volet de cette augmentation de la juridicisation, c'est la radicalité. On entre dans ce que les chercheurs appellent une boucle de rétroaction positive. Donc plus les militants vont intensifier leurs actions, plus l'État va les réprimer, plus les militants vont se sentir légitimes de désobéir. L'écart va donc se creuser entre l'État et les militants qui vont se sentir ni représentés, qui vont plus croire dans les institutions et qui vont plus réussir à parler avec l'État. Et si on pousse un peu la réflexion, on peut se demander quels sont les effets de la juridicisation sur la démocratie. La juridicisation, on l'a vu, en créant une lassitude chez les militants, peut engendrer une faille démocratique. Quand le droit ne produit plus de changements tangibles, il risque de devenir un espace de désillusion. Si on reprend par exemple l'affaire du siècle, la condamnation de l'État pour inaction climatique, cette condamnation, elle n'a donc pas eu de réels effets concrets. L'État s'est payé à lui-même une amende qui s'était infligée et ça n'a pas été suivi de changements réels sur sa politique écologique. Et si le droit ne sert plus à rien, c'est la confiance dans la démocratie elle-même qui s'effrite.
et qui ouvre la voie à la défiance, voire au désengagement citoyen, ce qui pose de réels problèmes sur la viabilité de notre démocratie. La deuxième faille dont on pourrait parler, c'est celle de l'utilisation des outils juridiques pour exercer une pression financière, par exemple sur les associations. Dans un contexte où, en ce samedi 11 octobre, les associations défilent dans les rues contre les coupes budgétaires et où, en même temps, elles doivent signer un contrat d'engagement républicain, donc un contrat entre les associations et l'État, qu'elles doivent respecter, notamment pour percevoir des subventions. L'État peut donc faire peser sur elles le risque d'une baisse de subventions si elles auraient recours à la juridicisation. En conséquence de ces pressions financières, les associations et les mouvements peuvent limiter leurs actions conflictuelles pour éviter de subir des effets directs sur leurs moyens. Tout cela peut avoir comme conséquence un affaiblissement du débat démocratique de par la perte d'influence des associations. In fine, la juridicisation pose la question de comment recréer du dialogue démocratique dans cette situation d'urgence, de polarisation très forte avec d'un côté l'État et de l'autre les militants écologistes. Créer des coalitions d'acteurs et une stratégie de réseau peut permettre d'instaurer un rapport de force et des espaces de négociation.
Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis désolée, je m'attendais à ce qu'on ait un peu des victoires à vous entendre parler, parce que là, je serai plus nuancée que vous sur l'affaire du siècle et sur d'autres affaires. Donc, je vais continuer à plomber l'ambiance, excusez-moi. J'ai la lourde tâche de vous parler, en fait, de la manière dont le droit va être utilisé pour empêcher celles et ceux qui nous informent de publier des informations. Je voudrais déjà commencer par quelques chiffres clés pour poser un peu le débat. Et aujourd'hui, la conversation, elle est sur le domaine de l'environnement. Il faut savoir que celles et ceux qui travaillent sur l'environnement, ce sont les personnes les plus à risque avec celles qui travaillent sur la corruption. Entre 2009 et 2023, 44 journalistes de 15 pays travaillant sur les questions environnementales ont été assassinés. L'année dernière, en 2024, 146 défenseurs de l'environnement ont été assassinés et la région du monde la plus meurtrière est l'Amérique latine, avec en trio de tête la Colombie, le Guatemala et le Mexique. Parmi les attaques que l'on retrouve le plus et qui ciblent le plus les défenseurs de l'environnement, on a les arrestations, la détention, les actions juridiques, et moi je me concentrerai sur ça dans un instant, les menaces, la surveillance et bien sûr les menaces de mort. On sait aussi que 92% des défenseurs de l'environnement ont au moins fait l'objet une fois d'abus en ligne ou de harcèlement. Et les plateformes les plus utilisées, celles qui sont les plus utilisées pour harceler les défenseurs de l'environnement, eh bien ce sont Facebook, X et WhatsApp. Donc je trouve que c'est très important en fait, d'avoir un petit peu ce contexte en tête, que travailler sur les questions environnementales en fait, vous met à risque et en danger. Alors déjà, je vais me présenter et vous dire qui je suis, d'où je pars. Moi, je suis juriste, docteur en droit. Je travaille en fait sur les questions de corruption et d'environnement depuis 15 ans. Et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai été très marquée par un événement. J'ai été marquée par le fait que le philosophe québécois Alain Deneau, qui avait publié le livre Noir Canada, qui relatait comment les entreprises canadiennes portaient atteinte aux droits humains en Afrique et en l'environnement, comment en fait son livre est arrivé à être interdit. Et donc ce livre n'existe plus, ce livre vous ne pouvez plus l'acheter à l'heure actuelle en librairie. Pourquoi ? Parce que une des entreprises qui était mentionnée dans ce livre, Noir Canada, a poursuivi Éco-Société, la maison d'édition, Alain Deneau et ses deux co-auteurs. Donc la poursuite, c'est ce qu'on appelle en fait une poursuite bâillon. Elle a conduit en fait à la signature d'un accord entre la maison d'édition, qui était une toute petite maison d'édition, face à une entreprise d'exploitation de l'or au chiffre d'affaires de plusieurs millions, plusieurs milliards d'euros. Et donc un accord a été conclu. Et dans cet accord, c'était que ce livre ne pouvait plus être mis à la vente et n'existerait plus. Donc ça, c'est l'impact qu'on peut voir en fait d'une manière dont le droit peut être utilisé. Et tout au long de ma carrière, en fait, j'ai rencontré des gens, des journalistes, des défenseurs de l'environnement qui étaient ciblés comme ça par le droit, que ce soit par des poursuites bâillon ou par d'autres législations. Et en fait, en 2022, je me suis dit que c'était important de parler de ce sujet. Et donc, j'ai continué à recenser les exemples. Et j'en ai trouvé beaucoup au niveau international et européen, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant en France. Et du coup, dans mon livre « Réduire au silence », il y a une part assez importante sur la France et comment le droit est utilisé pour réduire au silence celles et ceux qui nous informent. Et ça, c'est ce qu'on appelle en anglais le « lawfare ». C'est une contraction entre « law » et « warfare » pour dire « la guerre par le droit ». Alors, pour vous donner un petit peu un panorama sur cette répression juridique, eh bien, elle a plusieurs dimensions. La première, c'est ce que je vous disais, ce sont les poursuites bâillon, c'est comment le système judiciaire va être utilisé par les acteurs privés, donc par exemple par les entreprises, mais aussi par des milliardaires, des oligarques, des personnalités politiques. Eh bien, qu'est-ce qu'elles font si vous vous exprimez publiquement sur un sujet d'intérêt public, sur l'environnement? Eh bien, elles vont vous poursuivre en justice. Elles vont vous demander plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions d'euros dans certains cas. L'objectif, c'est de vous empêcher de faire votre travail, parce que pendant toute cette procédure judiciaire, vous allez devoir vous défendre, vous allez devoir faire appel à un avocat et vous ne pourrez pas en fait travailler sur l'environnement, vous ne pourrez pas enquêter, vous ne pourrez pas alerter, vous ne pourrez pas dénoncer des atteintes à l'environnement. Il y a plusieurs manières en fait pour poursuivre ces poursuites bâillon, elles prennent différentes formes. Ça va être le classique, c'est la poursuite en diffamation. Vous allez vous publier un article, on vous poursuit en diffamation. Vous vous exprimez comme là, maintenant, on va me poursuivre en diffamation pour m'être exprimé. Mais il y a d'autres fondements qui sont utilisés. Ça va par exemple être le dénigrement. Et là, je prends l'exemple de l'association Alerte aux Toxiques et Valérie Murat, qui a créé cette association Alerte aux Toxiques. Et elle avait publié un communiqué de presse dans lequel elle expliquait que certains vins labellisés HVE, donc haute valeur environnementale, certains vins de Bordeaux, contenait des pesticides, des traces de pesticides. Et à la suite en fait de ce communiqué de presse qui a été repris à travers la France, eh bien le Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux et 25 autres vignerons, syndicats de vignerons ont poursuivi Alerte aux Toxiques et Valérie Murat pour dénigrement. Malheureusement, Valérie Murat a été condamnée en première instance en 2021 à verser 125 000 euros de dommages et intérêts et 17 807 euros de frais de justice. Le tribunal, c'était devant le tribunal de commerce. Alors, les tribunaux de commerce, ce ne sont pas les tribunaux qui sont les plus sensibles à la question de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, etc. Généralement, quand on est poursuivi en diffamation, par exemple, c'est devant des tribunaux, des chambres spécifiques et elles ont l'habitude de ces questions autour de la liberté d'expression, ce qui n'est pas le cas des tribunaux de commerce puisque les tribunaux de commerce, d'habitude, ils jugent plutôt des litiges entre entreprises ou des liquidations. Donc Valérie Murat, eh bien, elle a été condamnée, elle a décidé de faire appel, mais pour pouvoir faire appel, en fait, il fallait qu'elle règle cette lourde facture, hein, on est sur pratiquement 180 000 euros et donc elle a fait une campagne de financement participatif pour pouvoir faire appel et elle a pu faire appel et pour l'instant on ne sait pas en fait si sa condamnation sera confirmée en appel. Mais voilà déjà un exemple de l'impact, ça veut dire que Valérie Murat dans ce jugement quand elle a été condamnée en dénigrement, le juge lui a dit qu'elle ne pouvait plus s'exprimer sur ce sujet. Donc elle, Valérie Murat, ne peut pas nous expliquer que certains vins de Bordeaux ont des traces de pesticides, peut-être certes dans la légalité, mais je pense que c'est important en tant que consommateur que nous sachions s'il y a des traces de pesticides dans des vins de Bordeaux. Autre exemple, Greenpeace, la France, la branche française, a été poursuivie par Total Energy pour diffusion d'informations trompeuses. Et ça, c'était à la suite en fait, d'un rapport que Greenpeace a publié sur la manière dont Total Energy comptabilise ses émissions de gaz à effet de serre. La procédure n'est pas allée à son terme parce que le juge a considéré qu'il y avait nullité, donc ça s'est arrêté là, mais ça aurait pu aller jusqu'au procès. Enfin, voilà, le Greenpeace aurait pu avoir à se battre en première instance, en appel, voire même éventuellement en cassation. Et un dernier exemple dans ce type de poursuite Bayon, l'association Canopée, qui est spécialisée dans le secteur forestier. Bien, l'association Canopée a un agrément qui lui permet d'agir notamment en justice, mais aussi d'intervenir dans des réunions de concertation. Et en fait, il y a l'association interprofessionnelle du bois et 13 autres organisations du bois qui ont attaqué l'agrément de Canopée pour l'empêcher en fait de mener ses actions. Et si Canopée venait à perdre son agrément, cela voudrait dire qu'elle ne pourrait plus mener des actions en justice ni participer à des actions de concertation. Donc on voit que les tribunaux sont utilisés par des acteurs privés comme ça pour empêcher les associations de mener leurs actions. Donc ça, c'est une forme de l'utilisation du droit. Une autre forme, en fait, et ça, c'est le rôle de l'État, on en a un petit peu entendu parler, l'État joue un rôle important et l'État, il a toute sa puissance publique qu'il peut mobiliser contre les défenseurs de l'environnement, contre les associations. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va mobiliser une rhétorique qui est stigmatisante, agressive, qui va décrédibiliser les défenseurs de l'environnement. On a tous entendu écoterroristes, ayatollah de l'écologie, taliban vert, Khmer vert. Et bien sûr, quand on utilise ces termes-là, qu'est-ce qu'on veut ? C'est instiller le doute, instiller dans l'esprit du citoyen qu'en fait, défendre l'environnement, et bien c'est une action criminelle, que les défenseurs de l'environnement sont de dangereux criminels et il faut les arrêter et ça permet de justifier la répression policière qui s'ensuit. Donc on commence par une rhétorique agressive et on continue par un usage disproportionné de la force. Et ça va de pair avec en fait un tournant sécuritaire qu'on constate en fait depuis 2015, état d'urgence, c'est l'exceptionnel. Et en fait, l'exceptionnel à partir de 2017 devient l'ordinaire. L'exceptionnel devient l'ordinaire avec l'adoption de la loi SILT, sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme. Et depuis 2017, on a à peu près 9 lois qui ont été adoptées pour protéger l'ordre public, pour lutter contre le terrorisme, pour lutter contre le narcotrafic. Et en fait, toutes ces différentes lois, qu'est-ce qu'elles font ? C'est qu'elles introduisent des mécanismes qui peuvent être ensuite mobilisés contre les défenseurs de l'environnement. Donc on est dans un contexte sécuritaire et en fait c'est par ce prisme-là que l'État regarde toutes les actions qui sont menées par les associations mais aussi par les défenseurs de l'environnement. On voit que de plus en plus, en fait, on va adopter aussi des mesures pour empêcher, par exemple, le droit de manifester, la liberté de réunion. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Eh bien, on va mettre en place le défaut de déclaration d'une manifestation. Avec la loi anti-casseurs, on interdit la dissimulation du visage. On met en place le délit d'attroupement, la participation à un groupement en vue de la préparation de violences utilisées contre les manifestants, le délit d'outrage à l'encontre de personnes dépositaires de l'autorité publique. En fait, la liste, elle est tellement longue que je ne veux pas vous la faire, sinon ça vous déprimera encore plus. Et vous voyez dans la formulation que c'est extrêmement large. Et donc, dans l'interprétation, c'est beaucoup plus facile, du coup, de l'utiliser contre les défenseurs de l'environnement. Je le disais, usage disproportionné de la force. On voit en termes d'armes qui vont être utilisées avec les gaz lacrymogènes, les grenades explosives, les lanceurs de balles de défense, les matraques, les grenades de désencerclement. Et je crois que tout le monde a vu avec la répression qu'il y a eu pour les méga-bassines de Sainte-Soline. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a eu 5000 grenades qui ont été balancées en l'espace en moins de 2 heures. C'est énorme. Pour la 69, il y a autre chose qui m'a marqué cet été, c'est qu'il y a eu un événement sur 3 jours qui a mobilisé 1600 gendarmes pour 2000 personnes. Hein, donc ça fait un gendarme, deux gendarmes par un gendarme par personne. Il y avait aussi 3 blindés, 2 hélicoptères, 2 engins lanceurs d'eau et il y a eu 120 tirs de grenades en 119 minutes. C'était un événement festif qui avait pour objectif de remobiliser les défenseurs de l'environnement sur la 69, voilà comment l'État a répondu. Et puis l'autre manière, bien sûr, de mobiliser le droit, bah, c'est l'action pénale. On a entendu un petit peu parler, c'est les procès. Il y a ce message, c'est qu'il faut agir systématiquement. Il faut qu'il y ait une réponse pénale aux actions de désobéissance civile ou aux manifestations. Alors, il y a le mouvement de soutien de défense de l'environnement, le MSDE, qui suit les différents procès des défenseurs de l'environnement. Et eux, ils ont déjà recensé plus de 300 procès, ce qui est énorme. Ces dernières années, là, on s'attend à pendant l'automne, à ce qu'il y ait une trentaine ou une quarantaine de procès d'ici la fin de l'année contre des défenseurs de l'environnement. Alors, jusqu'à présent, on avait plutôt des peines d'amende, voire des peines de prison avec sursis. Mais la semaine dernière, la militante Rachel de Dernière Rénovation a été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir balancé de la peinture orange sur l'hôtel de Matignon. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que là on assiste à un tournant et que en fait au niveau des tribunaux, les condamnations vont être beaucoup plus sévères et qu'on va aller vers un modèle à l'anglaise, hein, parce qu'en Angleterre, les défenseurs de l'environnement sont condamnés à plusieurs années de prison. Vous avez des défenseurs de l'environnement qui ont été condamnés à 3 et 4 ans de prison ferme pour s'être rencontrés sur Zoom et avoir discuté d'une action qui visait à bloquer une route. Donc ils se sont rencontrés sur Zoom et ils ont écopé de 4 ans de prison ferme. Donc au Royaume-Uni, la question c'est est-ce que cette condamnation pour Rachel annonce en fait un tournant encore plus strict à l'encontre défenseurs de l'environnement. Et puis, la dernière manière d'utiliser le droit, c'est adopter des législations. Et moi, je voulais prendre l'exemple de la loi séparatisme de 2021, qui avait pour objectif, je cite, « de lutter contre un entrisme communautaire, de lutter contre l'islamisme radical ». Et en fait, ça introduit des mesures qui ciblent les associations et les collectifs. Le contrat d'engagement républicain, ça en fait partie, mais qui a aussi élargi les conditions de dissolution et donc pour permettre en fait de plus facilement avoir des dissolutions administratives et les soulèvements de la terre en ont fait les frais, en ont été les premiers au niveau des mouvements écologistes à en faire les frais. Alors sur le contrat d'engagement républicain, moi je voudrais m'arrêter si c'est possible sur le sujet. Pourquoi ? Parce que ça a un impact vraiment très marquant sur les associations. Alors le contrat d'engagement républicain, connu sous son nom CER, n'a de contrat que le nom. C'est déjà, il faut le savoir, parce qu'un contrat, ça suppose une négociation entre 2 parties. Ici, il n'y a pas de négociation. Le contrat, il est figé. Il contient 7 principes, comme respecter les valeurs de la République, respecter les symboles de la République, respecter les lois de la République, etc. Ce que les associations devaient bien évidemment déjà faire avant le CER. Donc là, c'est juste le CER. C'est une manière, en fait, de museler, de tenir les associations. Les associations qui veulent des subventions publiques ou qui ont besoin d'un agrément doivent souscrire à ce CER. C'est-à-dire qu'en fait, quand elles remplissent leur demande de subvention, elles cochent une case pour dire qu'elles s'engagent à respecter le CER. Et alors, si elles ne respectent pas le CER, eh bien, on peut leur supprimer leur subvention ou bien leur demander de rembourser la subvention qu'elles ont perçue. Ça va être également utilisé, le CER va également être utilisé pour refuser la subvention, sachant qu'en France, il n'y a pas de droit à la subvention publique. Mais si on refuse une subvention au titre du CER, en fait, les associations, elles ont la possibilité de lancer un recours. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le CER n'est plus mobilisé explicitement, parce que sinon, elles vont aller saisir le tribunal administratif. Ce qu'on fait, ça va plutôt être de manière officieuse. On va leur dire non, on ne va pas, parce que vous ne respectez pas le contrat d'engagement républicain, vos actions de désobéissance civile ou vos actions de théâtre, vos formations sur les droits, eh bien non, ça ne respecte pas le CER, vous n'avez pas droit à la subvention. Et ça a des conséquences importantes. Un exemple, l'association APIE, qui est une association en environnement, dédiée à l'environnement, elle s'est vue retirer sa subvention et on lui a demandé également de rembourser une partie de la subvention qu'elle avait déjà perçue en disant qu'en fait, elle ne respectait pas le CER parce qu'elle aurait soutenu les manifestations contre les mégabassines à Sainte-Soline, parce qu'elle se serait exprimée après la manifestation et parce que matériellement, elle aurait soutenu la manifestation. Alors, pour prouver que la API aurait agi et aurait fait partie des manifestants, eh bien, on lui a dit qu'il y avait un devis avec son nom pour des toilettes sèches et que donc ça démontrait en fait sa participation à la manifestation contre les mégabassines de Sainte-Soline. Devis qui n'a jamais été signé, qui n'a jamais eu aucune facture ni rien. L'association a demandé à voir ce devis. À l'heure d'aujourd'hui, elle ne l'a toujours pas vue. Donc l'association a lancé des recours, elle a intenté une action devant le tribunal administratif, ça c'était en 2023. Le procès, il n'y a toujours pas eu d'audience. Et en attendant, elle a saisi, avec le soutien de France Nature Environnement, elle a saisi le rapporteur spécial des Nations Unies sur l'environnement au titre de la Convention à Aarhus, Michel Forst, qui a en fait rédigé un courrier à destination de l'État français qui a été rendu public il y a 15 jours où en fait Michel Forst fait la liste en fait de tous les manquements mis en place en fait par l'État à l'encontre de l'APIE et notamment sur le fait qu'on lui a retiré sa subvention au titre du CER. La France n'a bien évidemment pas répondu, c'est pour ça que le courrier est rendu public. Donc on voit vraiment le droit peut être à la fois un outil de changement et moi j'y crois, c'est important de le mobiliser, mais c'est aussi essentiel de voir comment le droit est aussi mobilisé pour empêcher les défenseurs de l'environnement, les lanceurs d'alerte, les journalistes, les chercheurs et les associations en fait de s'exprimer, d'agir et de défendre la planète et l'environnement. Voilà, je vais m'arrêter là, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, mais je vais m'arrêter là.
Ok, très bien.
Oui, merci. Je propose qu'on passe tout de suite au temps des questions-réponses. S'il n'y a pas de questions, c'est que vous avez tout compris, c'est parfait. Et que, oui, y a, alors je ne sais pas du tout comment on fait pour le micro. Ou alors parler haut et fort.
Oui, c'est une question.
Voilà.
Vaguement ma réponse ou je serai concise. La situation n'est pas mieux. Elle est très différente. On considère que la France c'est le pire pays d'Europe en matière de répression policière, mais par exemple pour l'Allemagne et le Royaume-Uni en matière de justice, c'est là où on a des décisions les plus strictes contre les défenseurs de l'environnement. Donc la situation, en fait, elle est pas bonne, elle est bonne nulle part. C'est juste que la manière dont on va s'attaquer aux défenseurs de l'environnement, elle est différente. Mais on a quand même une convergence. On dérange des intérêts économiques et politiques puissants et ça dérange à travers l'Europe et ça va de pair aussi avec des gouvernements qui sont quand même très conservateurs, pour juste dire ce terme-là, et pas... Tiens, moi j'ai plus de son. Ouais, d'accord. Et extrême droite, par exemple, en Italie, avec le gouvernement de Giorgia Meloni, donc elle est élue, elle est au pouvoir et première ministre depuis 2022. Eh bien, en 2024 et en 2025, elle a réussi à faire adopter des lois qui ciblent spécifiquement les actions de désobéissance civile. En 2024, c'est la loi éco-vandale et qui vise là toutes les actions, par exemple, de jets de peinture, etc. Enfin, c'est la manière dont la loi est rédigée, c'est vraiment pour cibler ces actions de désobéissance, ce type d'action de désobéissance civile. Et cette année, au mois de mars-avril, elle a fait adopter une nouvelle loi sécuritaire qui venait encore plus renforcer et augmenter les peines d'amende et de prison contre les manifestants et, pareil, les actions de désobéissance civile. Ça, c'est pour l'Italie. Et au Royaume-Uni, on a exactement la même chose. Et ça va se répandre comme une traînée de poudre à travers l'Europe.
Alors, pour compléter un peu, le rapport qu'on a cité de Forst, en fait, il met en évidence une évolution des dispositifs législatifs au niveau européen. Tous les États sont de plus en plus répressifs par rapport à ça, mais avec des diversités de modes d'action. C'est ce que Sophie a rappelé. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il signale qu'il y a un effet de mimétisme. C'est-à-dire que dès qu'un État met en place un dispositif répressif, les autres États se disent « Tiens, ça peut être pas mal, on va essayer de l'importer dans notre contexte à nous. » Et puis le deuxième élément, c'est assez intéressant, mais aussi inquiétant. Ça veut dire que c'est pas simplement dans les pays où... des politiques de droite s'appliquent le plus, que la répression s'applique le plus. Et là, il y a vraiment une dissociation. Par contre, les justifications et les qualifications de dénonciation des écologistes sont beaucoup plus importantes quand c'est des États plutôt de droite un peu radicale, comme en Italie. Alors c'est une vraie préoccupation chez nous en France, parce que vraisemblablement les prochaines élections vont pas trop bien se passer pour les forces de gauche, enfin, en tout cas s'ils continuent à faire les ouaves comme ils le font. Et si c'est des forces réactionnaires ou conservatrices radicales qui prennent le pouvoir, on le voit déjà dans le traitement différencié des violences qui sont perpétuées par la FNSEA, la coordination rurale, qui sont totalement impunies par rapport effectivement à la répression violente qui a lieu au niveau des écologistes. Et ces deux niveaux de répression, eh bien, se justifient aussi par des cadrages juridiques qui sont complètement différents, et surtout avec une interprétation de l'autorité répressive, l'État, et des juges. Hein, on relaxe cette militante écolo qui prend 6 mois parce qu'elle a balancé de la peinture sur un mur. Par rapport, je vous rappelle que, par exemple, le saccage qui avait donné lieu et les violences qui avaient donné lieu au ministère de l'écologie lorsque c'était Dominique Voynet, eh ben, il n'y a eu aucune sanction. Aucune. Et donc, vous voyez, cette différence, elle est extrêmement importante à traiter et à appréhender.
Ouais, ou sinon celui-là.
Ouais, si vous pouvez venir peut-être.
Par contre, merci pour les précisions. Pour une question très naïve sur ce sujet, vous dites qu'effectivement en Europe ça se dégrade partout. Il n'y a pas de perspective du côté des institutions judiciaires européennes au travers, avec toute sa lenteur, mais éventuellement de cas de contestation, de jugement ou de sanctions ou d'évolution du droit d'un État pour aller dire que ça violerait les droits fondamentaux, enfin voilà, s'appuyer sur, se raccrocher aux grands principes qui peuvent exister dans les traités ou dans les textes européens pour essayer de faire émerger une réponse en contrepoids à ces mouvements liberticides, quoi. Voilà, question grossière, mais je pense que vous m'avez compris.
Il y a des affaires qui sont remontées jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'est la plus récente, c'est celle sur les décrocheurs de portraits du président de la République. Ça nous a surpris puisque la Cour a considéré que la peine, donc c'était des peines de prison avec sursis et des peines d'amende avec sursis. Et donc là, la Cour a considéré qu'en fait, la peine était proportionnelle et que les cours, que ce soit en première instance, en appel et en cours de cassation, les juridictions avaient exercé ce qu'on appelle, un contrôle de proportionnalité, c'est-à-dire que les juges avait regardé les faits, la gravité des faits, l'infraction, la qualification qui était utilisée et avait bien pesé le pour et le contre, fait un équilibre pour pas que ça vienne porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté d'expression qui est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, les juges ont considéré que non, ça ne portait pas atteinte. Alors, on a une opinion dissidente de deux magistrats qui, eux, considèrent qu'en fait, oui, ces peines portent atteinte parce qu'en fait, il ne faut pas juste regarder la sanction, mais il faut regarder tout le processus en amont. C'est-à-dire que ils ont subi des perquisitions, une garde à vue, des audiences, il y a eu un procès en première instance, en appel, en cours de cassation. Et tout ça, ça participe de la dissuasion et qu'il ne faut pas s'arrêter à la peine. Et là, le souci, c'est que dans leur jugement, ils se sont concentrés vraiment sur un contrôle de proportionnalité, que la peine ne soit pas disproportionnée, mais n'ont pas regardé en fait l'ensemble de l'arsenal répressif qui avait été utilisé. Donc en matière de liberté d'expression, il y a eu plusieurs décisions favorables, par exemple pour les Femmes ou pour d'autres actions environnementales ou pour des journalistes, mais là pour cette affaire-là, ça va poser question. Est-ce que c'est un nouvel axe de la Cour européenne des droits de l'homme ou c'était juste cette affaire-là et ça ne préjuge en rien des autres affaires. Donc voilà.
Est-ce que vous pouvez venir?
Je voulais juste demander si l'introduction du principe de précaution dans la Constitution, ça avait changé quelque chose ou pas. Ah, on a déjà la réponse. Et puis, quand il y a un jugement qui est donné, qu'il n'y a pas de sanction, est-ce que quelqu'un, par exemple l'histoire de Voynet et de son bureau qui avait été saccagé, est-ce que quelqu'un peut trouver une raison pour justement retourner en justice en disant il y a quand même eu des dégâts ou il y a eu une atteinte ou il y a je sais pas quoi, je suis pas juriste, et à ce titre-là intervenir. Et ensuite j'en avais une troisième, du coup ça va par trois. Est-ce que on commence à voir émerger, on en a parlé tout à l'heure dans une autre conférence, la question des droits des non-humains. Est-ce qu'il y a des associations qui peuvent aller justement en justice à ce titre-là? Par exemple, il y a sur le long du Rhône, il y a des associations qui font des choses justement en parlant du droit des non-humains, qui essayent de faire la concertation, de faire avancer des conflits. Est-ce qu'il y a des choses qui se font?
Oui, moi je vais recommencer avec la question numéro 2. Alors par exemple, sur les décrocheurs de portraits du président de la République, en fait il y avait plusieurs mairies qui ne voulaient pas déposer plainte. Voilà, ils comprenaient l'action et puis je crois que le portrait coûte 35 euros. Donc mais peu importe, mais en tout cas, les mairies, il y avait plusieurs mairies qui ne voulaient pas déposer plainte. Et en fait, on est venu les solliciter, on leur a demandé de déposer plainte ou le procureur s'est saisi. Donc en fait, comme il y a une circulaire qui a été en 2022, qui a été prise par le ministre de l'époque, Éric Dupond-Moretti, et qui demandait à ce qu'il y ait une réponse systématique, rapide, d'un point de vue vue pénal, et donc les procureurs se saisissent, même si la personne ne souhaite pas déposer, qui a été visée par l'action, ne souhaite pas déposer plainte. Donc là, c'est soit la personne qui a été touchée par l'action qui peut déposer plainte, soit c'est le procureur qui peut se saisir. Et pour les décrocheurs de portraits, ils l'ont fait. Même sur d'autres affaires, sur les questions fiscales, par exemple, on avait attaque, notamment qu'enlever les chaises de la banque BNP. Bon, il y avait, il y en avait qui n'avaient pas vraiment envie de déposer plainte, mais il y a quand même eu des actions en justice. Donc, il y a cette façon-là d'agir. Après, je vous laisse répondre pour les autres.
Alors, sur la question, par exemple, de la prescription, mais avant même de la prescription, quand on a fait la journée du 1er octobre, il y avait un juriste, Alexis Baudelin, et lui, il a beaucoup insisté sur le fait que le procureur avait une grande liberté d'interprétation et d'intervention. Et donc, c'est un rôle clé. Mais le procureur, il agit pas seul, il agit sur ordre, entre guillemets. Donc, si la hiérarchie judiciaire lui dit... ce que tu rappelais, il faut systématiquement sanctionner tous les individus qui font les marioles en décrochant les trucs, etc. Il va le faire, parce qu'il a un intérêt juridique et professionnel dans son évolution de carrière, j'imagine. Donc cette interprétation, elle est extrêmement forte. Et après, il y a la qualification. Et le procureur, il a une certaine liberté de qualification des choses. Donc l'atteinte à la propriété privée, alors là, c'est difficile. L'atteinte aux personnes, c'est encore plus... vous allez avoir des sanctions plus importantes. Là, ça tombe bien, bon, ça peut se discuter, etc. Et là, ce que disait Alexis Baudelin, c'est effectivement la capacité aussi du procureur à écouter les arguments de ceux qui sont mis en accusation. Et là aussi, sa liberté est extrêmement grande. En l'occurrence, pour l'affaire de Dominique Voynet, si je me souviens bien, eh bien le procureur, il a estimé qu'il y avait une juste expression de la colère. Souvenez-vous aussi de Darmanin, qui avait exprimé « on peut comprendre la juste colère des paysans aussi ». Et donc, il y a une espèce de justification, par principe, de certains types de violences, parce qu'elles s'inscrivent dans des combats, le droit du travail, la reconnaissance des identités, tout ce que vous voulez, des rapports de domination, qui sont inscrits dans nos rapports politiques. Par contre, la justification de la violence, comme l'a rappelé David, au nom de la crise du vivant et de la disparition du vivant, ça, les procureurs... Bon, déjà, le droit de l'environnement, ce n'est pas leur préoccupation première. Les limites planétaires, ils en ont vaguement entendu parler, j'imagine, à un moment donné, qu'ils prenaient leur petit café. Mais ce n'est pas le référentiel de la décision juridique. Et ça rejoint un peu le principe de précaution, de prévention. Et normalement, vous vous souvenez, les étudiants ont justement rappelé le fait que dans la charte de l'environnement, qui a valeur constitutionnelle, on dit que la question de l'environnement est équivalente aux autres considérations. Donc le droit de propriété, etc. Donc normalement, le procureur, il devrait prendre en considération cette équivalence-là. Et force est de reconnaître qu'on n'est pas du tout dans cette préoccupation-là. Parce que bien évidemment, la défense du vivant va à l'encontre des intérêts économiques, de l'agro-business, des grandes fédérations de syndicats ruraux, etc., etc. Donc on voit bien qu'il y a une disproportion finalement de la qualification juridique qui est laissée à la libre interprétation sous contrôle évidemment de la hiérarchie judiciaire.
Moi, je voulais répondre du coup sur ce qui n'avait pas été abordé du coup dans la question, c'était par rapport au non-humain. Alors moi, je peux parler seulement des mouvements que je suis. Je me souviens très bien que lors d'un procès, alors c'était le premier procès en fait animaliste qui avait mobilisé la cellule Déméter, hein, qui est aussi un outil de dérive qui n'existe plus aujourd'hui, hein, de surveillance. Mis au service d'acteurs privés, mais comment ? Qui a été remis en cause ? S'il existe toujours ? Ah oui, d'accord, moi je crois qu'il avait été annulé. D'accord, bon, bah écoute. Mais en tout cas, ce qui était intéressant, c'est que... Comment ?
Je fais attention à toi.
Non mais, je veux savoir, ce qui était intéressant, si vous voulez, c'est que... Alors, l'argumentaire, en fait, lors du procès, donc il y avait les antispécistes qui disaient « Nous, on a libéré des animaux. » Le juge disait non, vous les avez volés, c'est pas pareil. Donc on voit bien où on en est. Et en fait, il y avait eu, donc, dans l'argumentaire du procureur, c'était en plus, c'est de la maltraitance animale. C'est-à-dire que vous avez, en fait, donc c'était il y avait des oies, il y avait des. Et donc ils avaient libéré donc, ces animaux pour empêcher qu'ils soient tués. Et donc en fait, ce qui avait été retenu, c'est qu'en fait, ils avaient donc volé notamment des animaux. Et en plus, ça avait été du coup accusé de maltraitance animale parce que ils étaient sortis de l'environnement, etc., etc. Et la seule chose qui fait que finalement, donc il n'avait pas été condamné, c'était que justement qu'il y avait eu un défaut de procédure. Et donc moi j'avais compris ça lors de ce procès. Là. Mais encore une fois, moi je suis pas juriste, je suis politiste. Donc voilà. Et un dernier élément quand même qui est donc sur un autre point, c'est intéressant, c'est-à-dire que quand on va se dire ah oui, la coordination orale, ce qu'ils ont fait, etc. Voilà, ça serait bien quand même que là, par contre, il y ait des poursuites, etc. Et quand j'étais à l'intérieur du Conseil d'État avec les soulèvements de la Terre pour la dissolution, du coup, c'était assez intéressant parce que les militants me disaient « David, ils sont où les fachos ? Ils sont où les fachos ?» Parce qu'il y avait l'Alvarium qui était jugé. Moi, j'habite Angers, donc c'est voilà. Sur quoi j'ai répondu « Malheureusement, les fachos sont pas en braille, donc je les vois pas. » Mais soudainement, là, en fait, la force de la dissolution administrative, elle faisait un petit peu envie, hein, parce que voilà, c'est aussi utilisé en fait le droit pour réprimer des associations d'extrême droite. Mais en fait, on est arrivé quand même à la conclusion que faut pas forcément se réjouir en fait que l'Alvarium il ait été dissous. Alors à titre personnel, bien sûr que si, mais en fait c'est quand même qu'il y a un outil administratif qui a été utilisé pour au final réprimer une association. Et avec certaines dérives et renforcements, je vous rappelle qu'une grande serviteur de l'État, dont je tairai le nom, donc c'est Pascal L'Église, disait que, interrogée par une commission d'enquête parlementaire, oui, mais en fait, ce qui est jugé, en fait, c'est des. Donc je vous rappelle, hein, dans la dissolution administrative, ce qui est jugé, enfin, Sophie le connaît mieux que moi, mais enfin, le discours qui était tenu à l'intérieur du Conseil d'État, ce qui était jugé, ce n'était pas des actes, mais des incitations à commettre des violences contre les biens, etc., etc. Et donc Pascal L'Église, elle disait, oui, mais ces incitations, elles peuvent être, vous savez, presque implicites, quasiment subliminales. Donc, ouais. Vous voyez, donc qu'est-ce qu'on. Enfin, ça pose question, à mon avis, mais.
Est-ce que vous connaissez la cellule Déméter ? Puisque ça a été mentionné, oui, il y a un oui, deux oui. Pas. Ok, alors un petit point sur la cellule Déméter. La cellule Déméter a été instaurée en 2019. C'est une cellule en fait qui est au sein de la gendarmerie avec une convention qui a été signée avec la FNSEA. Et l'objectif en fait de la cellule, c'est d'effectuer du renseignement, de lutter contre l'agribashing et notamment en fait de collecter un petit peu les opinions qui cartographiaient les opinions en fait au niveau du monde agricole et qui seraient en fait contre le monde agricole. Et ce que ça a eu comme effet, c'est une surveillance. Vous avez France Nature Environnement qui raconte comment la cellule Déméter des gendarmes en fait sont arrivés à des réunions publiques organisées par les associations, ont participé aux événements. Le président de France Nature Environnement, Antoine Gatté, un dimanche matin, il raconte, il est dans un petit village, il y a six maisons et en fait ils sont arrivés à plusieurs voitures et ils ont frappé à chacune des maisons avant de venir le voir le dimanche matin à 10h alors qu'ils savaient très bien où il était. Et donc la cellule voilà, était là pour lui poser des questions sur ses positions, sur ses activités, etc. Donc les conséquences des actions de la cellule Déméter, c'est de dissuader, de faire peur. Et donc la L214 a lancé une action devant le tribunal administratif pour demander que soit mis fin en fait aux missions de prévention et de suivi de nature et de logique, donc à arrêter la surveillance et la cartographie des positions des uns et des autres. Le tribunal y a fait droit en 2022, mais ça a été rejeté par la Cour d'appel, puis par le Conseil d'État. Et cette année, en fait, la L214 a initié un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, toujours en se battant pour essayer de supprimer en fait cette cellule Déméter qui surveille les défenseurs de l'environnement.
J'avais une question par rapport à l'intervention sur les trois axes avec un diagnostic, un pronostic et ce que fait, en quoi la désobéissance civile produit des effets sur le droit. Et est-ce qu'il y a des exemples d'évolution du droit qui, suite à des actions de désobéissance civile pour qu'on puisse savoir si des jurisprudences évoluent aussi suite à ces évolutions, à ces actions de désobéissance civile.
Moi, je suis pas juriste, moi.
Ah, bah, merci. Là, en matière environnementale, spécifiquement, moi, j'en connais pas. Par contre, il y a eu des recours, par exemple, contre l'A69 devant le tribunal administratif et il a été gagné. Mais les actions de désobéissance civile, elles aident à visibiliser un sujet parce que tout le monde a entendu parler de l'A69, tout le monde a entendu parler des méga-bassines. Donc, ça permet de mettre en avant des sujets. Il faut que ces actions-là, elles doivent aller de pair avec ce qu'on appelle le plaidoyer ou du lobbying. Et donc, c'est important qu'il y ait des relais après au niveau des parlementaires pour que ça se traduise dans des propositions. Donc, on alerte par ces actions-là et après, on le retranscrit en droit. Et là, à l'heure actuelle, au niveau politique, on est quand même bloqué, hein, pour le dire comme ça, poliment. Et c'est compliqué. Et après, l'action en elle-même, non, c'est qu'il faut, si on veut au niveau du tribunal, c'est qu'il faut après lancer une action en justice, un recours, etc., pour amener à du changement. Mais c'est important que ça fonctionne, ça se réponde, en fait, que ça vienne travailler ensemble. Et que de la désobéissance civile seule, ça ne suffit pas. Que du plaidoyer seul, ça ne suffit pas. Et que du contentieux stratégique, c'est-à-dire lancer des recours contre des entreprises ou l'État, ça ne suffit pas. Donc, c'est important qu'il y ait ces différentes dimensions qui fonctionnent. Et pour l'instant, j'ai pas d'exemple, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. C'est juste dire que je ne sais pas.
Alors, historiquement, ça peut fonctionner s'il y a une coalition d'acteurs institutionnels. C'est-à-dire que, par exemple, le mouvement des suffragettes seul, il n'a rien pu faire. C'est à partir du moment où le mouvement des suffragettes a été soutenu par des intellectuels, des chercheurs et des mouvements politiques que la cause à l'origine de cette désobéissance a pu être reconnue institutionnellement. Alors, ça n'a pas fonctionné dans tous les pays. Par exemple, en France, ce n'est pas les suffragettes qui ont trop pesé sur l'évolution législative. C'est une décision de l'autorité politique qui accorde le droit de vote aux femmes. Ce n'est pas le cas en Angleterre, par exemple, où il y a eu d'autres pressions. Ou en Irlande, ça s'est fait très rapidement. On a reconnu ça. Ce qui est important sur cette coalition d'acteurs, c'est qu'effectivement, par exemple, le mouvement des droits civils que les étudiants ont mentionné tout à l'heure aux États-Unis, c'est pareil. C'est pas l'acte désobéissant en tant que tel, c'est le fait que l'acte désobéissance va prendre sens dans une justification politique qui est plus profonde. L'égalité, la justice. Et ça, ça fonctionne. C'est plus compliqué pour aujourd'hui des militants qui se réfèrent à des référentiels qui sont moins précis. Par exemple, le mouvement des faucheurs volontaires s'inscrit dans une coalition d'acteurs. Il est soutenu par des syndicats. Pas la FNSE, évidemment, mais il est soutenu par des syndicats, il est soutenu par des partis politiques et il est soutenu par des scientifiques. Et le principal résultat des faucheurs d'OGM, c'est que globalement, ils ont perdu la lutte, mais ils ont une inflexion intéressante sur l'orientation de la recherche. Ça n'a pas empêché la recherche, parce que maintenant, les troisième génération d'OGM, etc., de continuer, mais elle ne pouvait plus produire une espèce de pouvoir d'influence automatique de la question des OGM. Elle a dû être beaucoup plus réservée, prudente, dans les expérimentations en sol, etc., etc. Donc il y a un effet. Le dernier élément sur cette évolution, là aussi, ça dépend aussi du contexte juridique dans lequel va s'inscrire cette désobéissance. C'est-à-dire que il y a là encore des causes qui peuvent expliquer le fait que le droit, c'est plus facile de reconnaître la désobéissance quand il y a déjà une législation qui reconnaît l'égalité des droits entre hommes et femmes. Vous pouvez donc aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en désobéissant. Mais par contre, encore une fois, si on reprend la question du droit des animaux, il existe un droit de l'environnement et l'État vous dit ça suffit. La loi de 2015 reconnaît l'identité spécifique des animaux domestiques. Ça suffit. On n'a pas besoin d'aller plus loin. On ne va pas donner des droits de vote aux animaux. Quelle bonne blague. On ne va pas non plus reconnaître des droits objectifs aux animaux d'aller en justice de manière autonome, etc. Vous voyez, c'est des lubies complètes. Sur le plan de juridique, ça, c'est intéressant parce que ça pose la question des référentiels. C'est ce que les étudiants ont très bien dit tout à l'heure. Entre un référentiel qui demeure anthropocentré sur le plan juridique, qui ne comprend pas l'intérêt de reconnaître les droits spécifiques aux animaux, et de l'autre côté, eh bien, des militants activistes qui pèsent de tout leur poids pour que cette question soit démocratiquement débattue. Et effectivement, c'est la mise en symbole. Mais vous voyez que c'est relativement facile de soutenir la désobéissance civile si c'est des droits civils. Moi, je n'ai pas entendu beaucoup de partis de gauche prendre fait et cause pour la question des droits des animaux, aussi la reconnaissance de la non-souffrance, le bien-être animal, tout ça. Mais la reconnaissance spécifique du droit des animaux, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est une proposition de débat démocratique, souvent la désobéissance civile. Est-ce que la société, elle est apte à se saisir de cet enjeu et d'approfondir sa réflexion là-dessus, bah là, ça va être un petit peu plus compliqué. En tout cas, en tant que tel, ça n'a jamais transformé profondément seul hein, l'acte désobéissant, mais si ça s'accompagne d'une coalition d'acteurs, d'une justification de cause qui sont audibles dans les référentiels d'une société, bah, c'est effectivement un outil assez puissant.
Juste pour compléter là-dessus, en fait, effectivement, moi, ce que je voulais montrer particulièrement, donc en tant que poétiste, c'était que en fait, la désobéissance civile, c'est d'abord une mise en scène, une mise en spectacle. À un moment donné, moi, j'avais publié un texte qui s'appelait Le rituel de l'éco-désordre ou le spectacle de l'éco-désordre. Alors, évidemment, j'avais reçu un certain nombre de menaces de gens d'extrême droite qui m'a dit on va te visiter, toi et ta secte, etc. Mais aussi, en fait, de d'activistes, gens plutôt à gauche, on va dire, qui disaient mais comment ça, c'est juste un rituel. Mais en fait, c'est extrêmement important, en fait, la dimension imaginaire de mise en scène, etc. C'est le droit, il ne se constitue pas comme ça, à mon avis, de manière totalement désincarnée. Et donc, peut-être là-dessus, pour ne pas trop entrer de temps, mais c'est quand même intéressant, je trouve, au final, la visibilisation en fait, de Sainte-Soline, etc. Ça a permis aussi, peut-être, un peu d'appuyer un peu les recours qui ont été menés. Actuellement, en fait, la bassine de Sainte-Soline, elle est interdite. Pourquoi ? Au nom d'un oiseau, l'outarde canepetière, qui est connu pourquoi ? Pourquoi canepetière ? Parce qu'elle fait... Pff, c'est son cri, quoi. Elle pète, voilà, son cri. Donc ça, moi, je trouve ça très drôle, en fait. Et voilà, je trouve ça génial qu'on puisse en arriver là, quoi.
Ne désobéissez pas comme ça.
Merci beaucoup. Du coup, je disais que moi, je suis étudiante en droit et sciences politiques, mais avant tout étudiante, militante à la LDH. Et alors, en France, on a plusieurs observatoires des pratiques policières et des libertés individuelles. Et à présent, liberté publique. Et à présent, en Saône-et-Loire et en Bourgogne, il me semble que c'est plus élargi à la BFC. On a un observatoire et on est actif du moins depuis un an. Et on fait des collaborations avec, par exemple, l'Observatoire de Lyon ou d'autres pour être sur tout le territoire. Et notre objectif, du coup, c'est de faire des rapports sur les pratiques, comme vous l'avez compris. Et justement, on était présents à Sainte-Soline. Et notre rapport, du coup, comme vous l'en doutez, vous savez quoi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Il me semble que non. Bref, voilà, c'était plutôt à titre informatif. Merci beaucoup. Et voilà.
Oui, juste là-dessus, moi, effectivement, je voulais m'excuser effectivement de ne pas avoir cité la LDH, qui, bien sûr, avait joué un rôle très, très important.
Ces observatoires sont extrêmement importants pour quantifier et rompre l'isolement des pratiques militantes. Parce que les étudiants ont parlé de l'essoufflement. C'est vrai que toute la répression vise à individualiser les acteurs. Par exemple, les faucheurs volontaires, ils étaient souvent dans des procès collectifs. Et donc, ils faisaient la teuf avant, après. C'était l'entraînement collectif. Vous avez tous vu les images de José Bové arriver triomphalement avec 4-5 autres militants, etc. Là, souvent, on essaie, dans la répression, d'individualiser l'acteur. Et c'est encore plus compliqué quand vous êtes seul, surtout quand une pratique désobéissante, c'est s'opposer à la loi, à l'État, à toute une partie de notre éducation, etc. C'est aussi face à ses réseaux professionnels, ses réseaux personnels, ses réseaux d'amitié. Et c'est la cellule de Méter qui va arriver. c'est le baillon lumineux. Et donc, c'est là aussi important qu'il y ait beaucoup de structures qui témoignent de la régularité et des situations communes qui sont vécues par l'ensemble de ces militants pour donner du grain à moudre, notamment aux avocats, par exemple, qui vont pouvoir utiliser beaucoup d'informations, et surtout les structures militantes aussi qui vont améliorer la formation professionnelle de leurs militants. y avait une autre question.
Oui, déjà une remarque. Ça fait plusieurs années qu'on manifeste, diverses manifestations. Et on voit l'évolution. On nous dit maintenant qu'il faut, au cas où ça se passe mal, eh bien, prendre un numéro de téléphone d'avocat. Donc, je trouve que déjà, ben, ça a évolué. Ce n'était pas comme ça il y a quelques années. Donc, moi, j'aimerais savoir aussi un petit peu comment ces avocats se positionnent, qui eh bien, est derrière et comment régler les problèmes de nos camarades qui se font embarquer et qui ben, ont besoin d'argent pour payer ces avocats.
Juste à la fin du livre de Sophie, il y a un petit guide, quels sont vos droits en cas d'interpellation, etc. Après, pour les avocats, il faut savoir que ça coûte relativement cher les procédures, mais il y a beaucoup d'avocats militants aussi. Et là aussi, les legal teams ont des réseaux d'avocats sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer pour défendre les activistes. Donc ça, les legal teams, normalement, c'est leur boulot de faire ça, quoi.
Et donc un petit témoignage qui va dans le sens de tout ce que vous avez dit dans le cadre du mouvement Bloquons Tout là, le 10 septembre. À Cluny, il se trouve que c'était un des plus gros rassemblements de Saône-et-Loire, c'est-à-dire qu'on était 100 personnes à peu près, 150 allez. Mais bref, alors on n'est pas du tout il y avait quelques-uns qui étaient un peu des professionnels, justement ce que vous avez évoqué, des professionnels du militantisme, etc., de l'activisme, mais la majorité, on était des habitués des manifs légales, non violentes, etc., et très attachés à ça, hein. Donc c'était un petit peu nouveau ce phénomène de désobéissance, hein, d'être dans une déclaration non déclarée. Du coup, on a improvisé, on a décidé le matin même de ce qu'on allait faire, enfin on n'a sûrement pas fait ce qu'on aurait dû faire. On a décidé le matin même, qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris des caddies parce que c'était un symbole, on voulait lutter contre la consommation. On est allé au supermarché d'à côté, on a pris les caddies et puis on s'est dit, ah ben on va aller bloquer la voie express, la RCEA. Là. Donc on est parti à pied. Le temps qu'on arrive, les flics ils sont arrivés avant nous, hein, parce que c'est quand même 3, allez. Mais bon, il fallait le temps qu'on avance. Comme on avait nos caddies et que sur le trajet, ben, il y avait des déchets par terre, et comme on est en général des écolos, ben, on a ramassé les déchets, on a rempli nos caddies avec les déchets. Et donc, c'était pour dire comme on était gentils, quoi. Et évidemment, comme on n'était pas des habitués, on ne sait pas faire, et ben, une fois arrivé là-bas, il y en avait qui voulaient rester, il y en avait qui voulaient rentrer. On a hésité. Alors, est-ce qu'on suit la majorité qui veut rentrer ? Ben non, ceux qui voulaient rester. Bref, ça a traîné. Du coup, les flics, ils sont un peu échauffés. Et bref, et au final, les flics, on les a entendus dire « Allez, on revient aux fondamentaux, sommation, interpellation !» Et ils en ont interpellé deux. Et donc, il y en a deux qui vont passer en jugement le 17 novembre. Et il y a des frais d'avocat. Donc, on voulait à la fois témoigner et à la fois faire un petit appel aux dons. Il y a une caisse de solidarité pour soutenir nos deux qui ont fait appel. Je pense que c'est un avocat de la LDH, le fameux numéro qu'on nous a donné le matin en début de manif. Je crois que c'est... mais ils vont peut-être avoir des amendes. Donc, c'est, en fait, il y a à la fois un appel aux dons, là, le témoignage, et une question, combien est-ce qu'ils risquent ? C'est quoi c'est les amendes qu'ils risquent ? Sachant que ce qui a été retenu contre eux, il y a trois choses, a priori. Il y a le fait qu'on était sur la voie publique, là, le truc, c'était pas déclaré. La rébellion, parce que ça, c'est le fait qu'ils ont, ils sont pas tout à fait laissés faire quand on a voulu les attraper. Mais... voilà, ça s'appelle rébellion. Honnêtement, on a... Enfin bon, bref. Bon, je sais pas. Et il n'y a pas... Non. Et le troisième truc, c'est qu'il y en a un, comme juste avant, il avait vu un flic avec ce qu'il a pris pour une grenade, il a cru que ça allait être des lacrymos, et du coup, ben, il a monté son t-shirt devant son... Et du coup, ben, dissimulation du visage. Voilà, mais tout le reste de la manif, il n'avait pas de visage dissimulé, hein. Mais n'empêche qu'il y a ces trois choses-là. Voilà, qu'est-ce qu'ils risquent ? Et puis donc, voilà, vous avez repéré nos trois visages. On peut te mettre dedans, non ? Alors, nos deux visages. Donc, n'hésitez pas. Il y a eu cette caisse de solidarité qui est en train de se mettre en place. On a déjà à peu près 600 euros, mais ça ne va pas suffire. Là, on ne couvre pas les frais d'avocat. Donc, voilà. Merci pour eux.
Alors,
je résiste pas à rajouter qu'il y a un troisième qui avait été pris, qui s'est fait choper, non, même à Cluny, qu'il a réussi à se dégager en les poussant et qu'ils l'ont laissé partir. Moi, je comprends pas. Ah.
C'est peut-être le représentant du RG local.
Juste en complément, pour finir là-dessus, Catherine Amaro, présidente de la LDH locale. Donc non, ce n'est pas un avocat de la LDH qui les suit maintenant. Et nous, on avait bien donné le numéro de l'avocat de Macron, mais ce n'est pas lui qui a été contacté. Donc il faudra quand même juste se remettre en relation sur les mouvements à Avignon, ce genre de choses. Et l'autre aspect, c'était quoi? T'as dit un truc?
Ce qu'il risque.
Ce qu'il risque.
Ce qu'il risque. Ce qu'il risque.
Excuse-moi, il faut un micro en place.
Non, parce que ça, c'est pas la peine que ce soit enregistré. Non, mais ce qui est intéressant, c'est ce que va dire monsieur. Moi, c'est juste l'info pour la salle, rapidement. Ouais. Ce qu'il risque, bah, ça va dépendre, mais ça sera la toute première fois. Donc, ils vont parler de grand-chose. Hein. Ils vont être tout gentils. Ils vont dire qu'ils n'ont pas bien compris les règles. Et puis, ça va passer tout seul pour cette première fois. Juste un truc, refuser de manière systématique la comparution immédiate. Parce que là, souvent, par contre, il y a une sanction directe. Donc vraiment se laisser le temps et se laisser le temps de prendre un avocat.
Alors, c'est extrêmement compliqué de répondre qu'est-ce qu'il risque, parce que c'est l'interprétation du procureur, c'est le juge, enfin il y a toute une chose, mais effectivement si c'est pas des récidives, parce que c'est ça aussi qui est très fort, si vous êtes pris une fois, deux fois, trois fois, par exemple sur les faucheurs volontaires sur lesquels j'avais travaillé, on voyait l'augmentation des amendes. Une fois, vous étiez condamné, je sais plus, à 10 000 francs. Une deuxième fois, c'était 20 000, et une troisième fois, 30 000. Donc ça commence à faire beaucoup quand vous êtes un militant et que vous êtes soutenu par une coalition d'acteurs. Au bout d'un moment, les gens disent bah, on n'a plus de sous. Quoi. Donc c'est très compliqué. Après, il faut vraiment adopter un profil bas au moment du passage devant le juge. Voilà.
Non, juste par rapport, ça renvoie, si vous voulez, à ça, à cette question de la professionnalisation éventuellement des militants. En fait, elle est clairement pas absolue. La semaine dernière, il me semble que c'était, j'intervenais à Lille, avec entre autres la LDH, les organisateurs de Sainte-Soline, etc. Et ils distribuaient des petites brochures, nos droits en manifestation. Donc, je pourrais vous la donner parce qu'elle est pas en braille. Donc moi, bon voilà. Mais je l'avais pris. Je me suis dit, ça pourra me servir. Bah voilà. Il y a effectivement, vous pointez quelque chose qui est important, c'est que je crois aujourd'hui qu'il y a un écueil, en fait, une méconnaissance des droits, et que, on l'a dit, aujourd'hui, ça devient absolument essentiel de connaître ses droits, quand on va militer, quand on va manifester, etc. etc. Quelles sont effectivement les pratiques qu'il faut adopter en garde à vue? Moi, j'intervenais avec Antoine Chaudet, un avocat, qui disait qu'il y a une règle. Le droit au silence, le droit au silence, le droit au silence, ne dites rien. Enfin, il y a des choses comme ça. Donc, voilà. Juste pour une anecdote, c'est pas un cas isolé. Hein. Moi, il y a trois semaines, j'ai deux militantes qui m'ont contacté, moi, en tant que chercheur, donc, voilà, pour me dire « David, au secours, on a fait une action. Est-ce que tu sais s'il y a un avocat qui pourrait nous défendre parce qu'on ne sait pas ce qu'on risque ?» Alors que c'était une action nationale, en fait, coordonnée par Attac, je peux le dire, hein, qui était banque toxique, qui consistait principalement à mettre de la peinture sur des banques, enfin, pour dénoncer leur attachement écocidaire. Bref, et donc, normalement, il y avait un dispositif avec des legal teams, des numéros, etc., etc. Sauf que là, les adresses avaient changé. Finalement, celui qui s'en occupait n'était plus tout à fait là, etc. Et donc, elle se retrouvait un petit peu toute seule, alors que c'était un mouvement national. Donc ça, les militants, effectivement, ils sont en train de se mettre aujourd'hui en mouvement pour que ça n'arrive plus jamais, hein, pour les défenseurs de l'environnement. C'est en particulier ce qu'est en train de faire le MSDE. Hein. Le MSDE, c'est effectivement qu'on avait invité aussi à la journée d'études, hein, et qui a été intervenu. Le MSDE, donc un mouvement de soutien des défenseurs de l'environnement, qui a plusieurs objectifs parce qu'ils sont en pleine évolution, mais qui font entre autres en fait de la jurisprudence. Donc ils analysent des procès, ils documentent les procès, ils font des petits flyers de tout ce qui s'est dit en procès, c'était quoi la défense, c'était quoi les peines retenues, etc., etc. Et typiquement, là, les militantes qui m'avaient contacté, ils sont aussi contacté le MSDE qui a pu leur dire « Ah bah voilà, en fait, dans ces cas-là, comment ça s'est passé? C'est quoi les peines qui ont été prononcées, etc. etc. C'est quoi la stratégie de la défense qui a été mise en place? Pourquoi ?»
Alors moi, je veux féliciter les étudiants qui, dès ce matin, ont préparé leur sujet et qui ont fait une bonne intervention. Alors moi, j'appartiens j'appartiens à un comité de soutien à la Palestine, affilié à BDS, alors c'est écrit quelque part, Boycott, Disinvestissement et Sanctions. Donc, alors je souligne l'importance d'un avocat, parce que les deux ans, ça fait deux ans que l'on manifeste tous les samedis, avec un collectif qui est très précis pour les formes d'action, et d'une quinzaine de mouvements et de partis, donc partis ou syndicats étudiants. Et donc, c'est au prix de cette application très fine de la non-violence que l'on n'est pas couvert ou sous on n'est pas soumis à des répressions très, très fortes. La seule qu'on a eue, c'était la première interdiction à manifester. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est plus pernicieux, c'est du menace de harcèlement bancaire vis-à-vis d'une franco-palestinienne qui appartient au mouvement. Donc, ce que je souligne, moi, c'est le fait que dans les manifestations, les boycotts des entreprises, dans l'organisation de quinzaines culturelles, on a chaque fois veillé à être hors de portée. Et finalement, les flics ne viennent plus. Donc, ils étaient là au début, puis là, ils ne sont plus là. Voilà, bon, juste la non-violence, ça marche.
Juste une question, vous avez été formé à ça et vous formez vos militants ?
Alors, moi, j'étais un militant du Larzac. Il en reste. J'ai connu Jean-Baptiste Limouban, j'ai connu Lanza del Basto, donc j'ai aussi un passé. Et j'appartiens également au mouvement pour une alternative non violente.
Alors, peut-être une dernière question ? Sinon, on a épuisé les forces militantes. Oui, une question.
C'est deux questions en une. La première, à chaque fois qu'on a un procès militant, on tente le coup de l'état de nécessité. Et à ma connaissance, il y a une seule fois où c'était reconnu, je crois, sur une petite action. Ah, quatre fois ! Si vous pouvez les redonner, ça serait bien. Est-ce qu'on a une chance que cet aspect de la plaidoirie soit un peu plus salvateur dans le futur. Je veux dire, est-ce qu'avec l'augmentation des crises qu'on constate, hein, est-ce qu'on ne pourrait pas espérer, je suis peut-être un bisounours, hein, mais est-ce qu'on ne peut pas espérer que les juges comprennent de plus en plus ces enjeux-là et acceptent de plus en plus cet aspect du droit pour défendre les militants ? Et une autre question qui est sur une thématique qu'on n'a pas abordée aujourd'hui, mais sur la question de l'utilisation de l'apologie du terrorisme contre les partis politiques aujourd'hui, qui est à mes yeux de plus en plus utilisée pour bâillonner certaines dénonciations, et comme c'était le cas avec la Palestine. J'étais un peu curieux d'avoir votre avis là-dessus. Voilà.
Non, juste, il y a quatre, d'après la MDSE. Ouais, voilà. Je suis un peu dyslexique, alors j'ai du mal dès qu'il y a des acronymes. Ils nous ont expliqué qu'il y avait eu l'avocat qui travaillait là-dessus, nous a expliqué qu'il y avait eu 4 décisions. Ceci dit, sur 300. Donc, c'est déjà... Voilà, c'est un frémissement. La seule chose, j'en discutais avec un juriste que les étudiants connaissent bien, Laurent Fombostier, qui milite ardemment pour une reconnaissance effective du droit de l'environnement dans le cadre du droit général. Et lui, il disait qu'en droit, on ne sait jamais quand un signal faible devient un signal important. Et donc, lui, il pense, et j'espère qu'il a raison, que finalement, la réflexion sur le droit de l'environnement va devenir de plus en plus forte parce que les contraintes écologiques deviennent de plus en plus fortes et que les juges vont être aussi sensibilisés à ces questions-là. Alors, lui, son hypothèse, c'est que dans une dizaine d'années, on aura vraiment un infléchissement considérable sur le droit de l'environnement qui rendra les actions de désobéissance complètement inutiles parce qu'il y aura une modernisation du droit de l'environnement. C'est un juriste. On espère qu'il a raison dans sa vision positive de l'avenir.
Oui, après, il y a une association de magistrats en droit de l'environnement qui s'est créée, donc, qui permet de réunir en fait, tous les magistrats qui s'intéressent à la question environnementale, soit qui ont à traiter des dossiers, soit simplement pour qui voilà, il y a un intérêt. Ils organisent des événements, etc. Donc, il y a une sensibilisation de plus en plus importante. Là, il va y avoir Michel Forst, dans les prochains jours, va publier son guide à l'intention des États en matière de respect pour la désobéissance civile, pour rappeler que la désobéissance civile, en fait, c'est protégé en droit international quand il s'agit d'une action publique sur un sujet d'intérêt public et qu'elle est non violente. Et donc, lui, il est en train de publier des lignes directrices pour justement cadrer, rappeler que s'il y a des sanctions, eh bien, elles doivent être mesurées, etc. Après, 10 ans, c'est long. Peut-être qu'en première instance, il y a l'état de nécessité, mais il y a encore la Cour d'appel et la Cour de cassation. Et il y a plusieurs décisions de la Cour de cassation qui rejettent l'état de nécessité. Et que là, c'est intéressant aussi d'aller sur la question de la liberté d'expression qui apporte une certaine garantie. Et donc, de réfléchir en fait à la stratégie. Est-ce que c'est état de nécessité plus liberté d'expression ? Enfin, il faut réfléchir à plusieurs, je pense, à plusieurs dispositifs pour pouvoir se défendre. Et puis après, c'est aussi un mouvement collectif qu'on doit avoir, juriste, non juriste, pour pousser et mettre en place un cadre qui vienne protéger en fait, comme les lanceurs d'alerte, les journalistes, les défenseurs de l'environnement, et réfléchir à quel dispositif on peut mettre en droit pour qu'il y ait une justification. Et voilà, on en est au tout début de commencer à réfléchir, à se dire qu'il faudrait peut-être prévoir quelque chose de particulier quand il y a des actions de désobéissance civile en matière environnementale.
Sur le deuxième volet de votre question, je pense que c'est exactement la même stratégie d'empêchement d'une expression contradictoire par rapport à une décision de l'État. Voilà, l'État a décidé que, et voilà, et ça va être compliqué. Ceci dit, David l'a rappelé, hein, la démocratie, c'est l'espace du conflit. Et c'est à nous de construire des modes d'action qui rendent ce conflit légitime et audible. Okay, bah, merci beaucoup. Je tiens à remercier vraiment les étudiants. C'était super ce que vous avez fait. Voilà. Sophie dédicace son livre à la librairie au prix de 21 €. Et avant, dans Charlie Hebdo, il y avait une petite. Quand on faisait une chronique d'un bouquin, on disait, le mec qui faisait la chronique de Charlie Hebdo disait achetez-le le bouquin, et si vous n'avez pas les moyens de l'acheter, volez-le. Voilà. Donc.